7h, 9h. Nicolas Aliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le mardi 22 janvier, c'est la Saint-Vincent, la neige donc, elle arrive dans un instant. Reportage sur les saleuses qui toute la nuit ont préparé les routes et n'hésitez pas, si la neige vous a déjà rendu visite ce matin, partagez vos images et vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag E1Neige. On va tout relayer. À ne pas manquer également dans le 7-9, 7h20, immersion dans la peau des agents secrets du renseignement pénitentiaire, des agents infiltrés dans les prisons françaises qui luttent contre la radicalisation des détenus. Enquête passionnante à suivre dans Europe 1 va plus loin. Et puis à 7h45, une rencontre exceptionnelle avec le petit-fils de Nelson Mandela, Ndaba Mandela, qui publie un livre, Le courage de pardonner, 11 leçons de vie et de sagesse reçues de son grand-père. Voilà pour le programme, beaucoup de choses à partager avec vous ce matin. Si vous prenez la route, soyez prudents. On vous accompagne jusqu'à 9h. Bonne journée à tous, vous écoutez Europe 1.
Excellente matinée à vous en ce mardi 22 janvier. Et très bon réveil, il est 7h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nicolas Aliagas.
Bonjour Hélène Zellani.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Tombe la neige, 24 départements en vigilance orange. Les flocons arrivent en ce moment sur la région parisienne où les automobilistes sont appelés à limiter leurs déplacements. De nouveaux cas suspects de bébés sans bras, trois petites filles nées avec la même malformation dans un périmètre restreint près de l'étang de Berre dans les Bouches-du-Rhône. Et puis le prélèvement à la source n'est pas vraiment la paix des ménages. Certains couples doivent procéder à quelques ajustements avec parfois des tensions à la clé.
Europe 1.
On les guette, on les attend, on les craint. Les voici, les flocons. Ils sont arrivés ce matin par la Normandie. Il doit neiger sur une bonne partie de la France. 24 départements du Nord et du Centre en vigilance orange. Jusqu'à 15 cm attendus localement dans le Morvan, 10 cm dans les Ardennes, entre 2 et 5 cm en région parisienne. Évidemment, on vous incite à la prudence ce matin, surtout si vous prenez le volant. La neige arrive en ce moment sur l'Île-de-France et pour éviter la pagaille comme l'an dernier, des opérations de salage sont en cours, notamment sur la Nationale 118 où 900 personnes étaient restées coincées dans leur voiture. Pierre Herbulot assiste à ces opérations pour Europe 1.
5 tonnes de sel dans la remorque et tout doit disparaître. Dans sa saleuse, Olivier commence sa première tournée de la nuit.
On a un boîtier de salage ici qui permet de régler le grammage du sel au niveau de la largeur d'épandage. C'est 10 grammes de sel au mètre carré. Ben là, on va partir en mode salage puisqu'il neige pas et s'il se met à neiger, on partira en mode raclage.
Ils sont 59 avec lui à sillonner les routes de la région. L'idée, c'est d'éviter la scène de l'an dernier avec 900 véhicules bloqués sur une nationale. Mais malgré toutes les préparations du monde, impossible de prévenir le phénomène à 100%, explique Alain Monteil, directeur des routes d'Île-de-France.
Ce genre de situation dépend effectivement de la période où tombe la neige, de son intensité, mais également du comportement des usagers, puisqu'il faut que nos engins de déneigement puissent circuler, puissent passer. Si des automobilistes imprudents, non équipés, se mettent en travers de la route, ils bloquent très vite l'ensemble du secteur, créent des bouchons qui ne nous permettent plus d'intervenir.
Sur les zones les plus à risque, les glissières de sécurité ont été aménagées pour que d'éventuelles voitures bloquées puissent faire demi-tour et une trentaine de barrières de fermeture de route ont été ajoutées.
Pierre Herbulot. Et sur la Nationale 118, les poids lourds sont interdits de circulation. Dans l'ensemble de la région Île-de-France, la vitesse est limitée à 80 km/h tant que les conditions météo le justifieront.
Et n'hésitez pas à partager vos infos et vos photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag E1Neige. D'ailleurs, à l'instant, Matt Bunny qui nous dit « Il neige dans la région de Thionville » avec une jolie photo.
Et si vous avez déjà pris la route, est-ce que c'est possible de demander à votre employeur de rentrer plus tôt à cause des conditions météo ?
Ah, ça m'intéresse.
Eh bien, écoutez la réponse de l'avocat d'Europe 1, Roland Pérez.
Le code du travail est très clair, on ne peut pas se mettre en danger, on peut même exercer ce qu'on appelle un droit de retrait, c'est-à-dire que en aucune situation le salarié ne peut se mettre en danger, de la même manière l'employeur ne peut pas mettre son salarié en danger, donc s'il faut pour cela partir beaucoup plus tôt, il faut le faire, et le patron ne peut en aucun cas s'y opposer, il peut même encourager ses salariés à le faire. C'est du temps de travail qui peut être récupéré plus tard. Si le salarié a tout de même fait l'effort de venir malgré les intempéries, s'il a bravé le froid et la neige et il est parvenu à se rendre à son travail, l'employeur, dans la plupart des cas, ne retiendra pas les heures d'absence s'il part plus tôt.
Roland Pérez, avocat et chroniqueur sur Europe 1. Vous, Nicolas, vous restez jusqu'à 9h.
Évidemment,
on compte sur vous.
Je suis heureux d'être là.
Et par ailleurs, 7 départements ont activé le plan grand froid pour les sans-abri. Ardennes, Haute-Marne, Nord, Eure, Seine-Maritime et Var. Au total, 146 800 places d'hébergement étaient ouvertes hier soir, près de 6 000 de plus que l'an dernier. Europe 1, il est 7h03.
Après la Loire-Atlantique, l'Ain et le Morbihan, de nouveaux cas de bébés sans bras sont répertoriés dans les Bouches-du-Rhône cette fois-ci.
Trois fillettes nées avec la même malformation en 2016, dans le même secteur, celui de l'étang de Berre, connu pour la pollution de ses sites industriels. Stéphane Frangy a rencontré l'une des mamans qui éprouve encore aujourd'hui un sentiment de culpabilité.
Deux ans après la naissance de sa fille, privée d'un avant-bras, Elisabeth reste marquée par son accouchement.
Cette douche froide de voir que notre enfant avait une malformation, ça a été très très dur à vivre puisqu'on n'avait pas été préparé. Le premier réflexe a été de me dire qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il lui arrive ça. Parce qu'en étant une maman, voilà, c'est nous qu'on l'a porté. Cette question-là, la culpabilité.
Les experts médicaux vont la déculpabiliser à défaut de la renseigner sur les causes de cette malformation.
On nous a dit que c'est la faute à pas de chance. C'est trop facile en fait. Voilà, on ne peut pas rester sur ça. Dans quelques années, on va avoir les questionnements et j'aimerais lui répondre, lui dire pourquoi elle a une malformation.
Via une association, elle va rencontrer par hasard trois autres mamans dans son cas. Deux d'entre elles ont accouché à quelques mois, mais surtout à quelques kilomètres d'intervalle.
Là, on se dit, on se pose des questions, puisqu'on a toutes pris des précautions lors de la grossesse. Peut-être qu'il y a autre chose sur la pollution. Voilà, il y a beaucoup de questions à ce niveau-là. Nous, c'est sûr qu'on a tout ce qui est industriel dans le pourtour de l'étang. Oui, on a des doutes quand même.
Et c'est parce que d'elles-mêmes, ces trois mamans se sont signalées que ce cas groupé a pu être mis au jour, car les Bouches-du-Rhône, comme la grande majorité du territoire, ne disposent pas de registre de recensement des malformations congénitales. Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1.
Alexandre Benalla ne s'est pas montré très bavard sur ses passeports diplomatiques hier devant la commission d'enquête du Sénat. Deux heures d'audition, très peu de réponses. Le plus souvent, l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron s'est réfugié derrière l'enquête judiciaire. Et puis, 12 personnes, dont plusieurs femmes, ont été arrêtées pour l'incendie du péage de Narbonne sur l'A9 en marge d'une manifestation de Gilets jaunes. C'était dans la nuit du 1er au 2 décembre.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani. Et nous allons parler d'un décryptage des fausses informations qui circulent sur le traité franco-allemand qui est signé aujourd'hui à Aix-la-Chapelle. On vous dit tout. Juste après ça, bon réveil à tous sur Europe.
Il est 7h07, votre matinale info, Nico Saliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani, Angela Merkel et Emmanuel Macron. Rendez-vous ce matin à Aix-la-Chapelle en Allemagne.
Oui, ils signent un nouveau traité pour renforcer la relation franco-allemande à 4 mois des élections européennes. Il s'agit de compléter le traité de l'Elysée de 1963 entre De Gaulle et Adenauer. Mais pour attaquer Emmanuel Macron, des figures de l'opposition n'hésitent pas à véhiculer de fausses informations sur le texte. Jean-Rémy Baudeau.
En politique, plus on tape fort, plus on a une chance de se faire entendre.
Emmanuel Macron commet un acte qui relève de la trahison.
Depuis plusieurs jours, Marine Le Pen dénonce le traité de l'Elysée, expliquant qu'Emmanuel Macron vend, je cite, « notre pays à la découpe ». Son principal argument, le siège français à l'ONU que la France s'apprêterait, selon elle, à partager avec l'Allemagne.
Cela signifie que la France ne s'exprimera plus dans le monde en son nom, de manière autonome, mais de manière négociée. Le président français décide de sortir la France du rang des grandes puissances pour en faire un pays de second ordre.
Problème sur les 13 pages du traité, à aucun moment ce partage n'est mentionné. La France s'engage même à pousser pour que l'Allemagne obtienne son propre siège. Marine Le Pen rejoint dans sa critique par un autre souverainiste, Nicolas Dupont-Aignan, dont un proche a lancé une fausse information sur la cession de l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne.
Ce traité organise la soumission de la politique étrangère, diplomatique et de défense de la France à l'Allemagne.
Aucune de ces affirmations ne sont vraies, mais l'objectif est atteint. Comme le traité de Marrakech, un soupçon plane désormais au-dessus du traité d'Aix-la-Chapelle, au point que certains membres de l'opposition à gauche réclament désormais un référendum.
Jean-Rémy Baudeau. La politique, c'est aussi cette annonce qui a pu surprendre hier. Marlène Schiappa va co-animer une émission avec Cyril Hanouna, intitulée « La parole aux Français » autour du grand débat. Elle se tiendra vendredi soir sur C8. La secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes ne sera pas rémunérée, bien sûr, pour cette émission.
Moi, je l'appellerai bien ce matin à Marlène Schiappa, essayer de comprendre pourquoi elle a décidé de faire ça avec Cyril Hanouna. D'ailleurs, on parlera avec Jean-Michel Apathy de cette information tout à l'heure à 7h40. Ça sera l'édito de Jean-Michel sur Europe 1.
Elle ne va pas tarder à arriver dans nos boîtes aux lettres, la nouvelle feuille de paix avec le prélèvement à la source, au-delà du risque psychologique dont on a beaucoup parlé, l'impression de gagner moins. Ève Roger, vous êtes penchée sur un autre phénomène intéressant, les couples bien obligés de parler d'argent et parfois ça chauffe.
Imaginons un couple où tous les deux travaillent et où les charges sont très bien réparties. C'est monsieur qui paie les impôts et madame les courses du quotidien. Voilà que maintenant, madame est aussi prélevée sur son salaire et c'est tout le budget du couple qu'il faut remettre à plat. C'est ce qui est arrivé à Emeline et son mari.
Les sous, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus drôle. Donc ça a mis des tensions pour réaffecter au plus juste parce qu'on essaye de faire au plus juste, même si on gagne pas la même chose, pour que le couple soit pas déséquilibré, pour pas se retrouver dans le rouge à la fin du mois de janvier.
Chez Estelle et Jean, autre situation. Jusque-là, ils faisaient compte commun et déclaration fiscale unique. Mais Jean a perdu beaucoup de revenus par rapport à Estelle et ils ont dû opter pour le taux individualisé à contre-cœur.
Moi, ça m'a gêné symboliquement de dire qu'on coupait le foyer fiscal en deux. Parce qu'on a toujours tout partagé. Cette logique d'individualisation des taux m'a amené à considérer qu'on coupait quelque chose dans notre espèce de solidarité de couple. Parce que, effectivement, on se retrouve chacun à gérer nos petites affaires de notre côté.
Une réforme qui oblige les couples à parler d'argent, et les spécialistes l'assurent, on déteste ça. Car quand on aime, on ne compte pas.
Ève. Oui, en principe. Ève Roger. Le tennis, le jeune grec Tsitsipas s'est qualifié pour sa première demi-finale en Grand Chelem. Je savais que ça allait vous faire plaisir, Nico. S'il a battu l'Espagnol Bautista à l'Open d'Australie et pourrait bien affronter Nadal pour une place en finale à 20 ans, il a déjà sorti Federer au tour précédent.
Je lui ai tout appris.
Ça ne m'étonne pas.
Bien sûr. Vraiment, je le connais depuis qu'il était petit, quoi.
On en apprend des choses ce matin. Et puis on va terminer avec la mort d'une légende de l'accordéon, Marcel Azola. Ah, il avait 91 ans et il avait accompagné les plus grands, Barbara, Piaf et bien sûr Brel. Tout le monde se souvient du fameux « Chauffe Marcel » dans la chanson Vesoul enregistrée en 68.
T'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as voulu aimer Duton, on a quitté Duton. Mais je te le redis, chauffe Marcel, chauffe, je n'irai pas plus loin.
Vesoul de Jacques Brel avec l'accordéon de Marcel Azola.
Quel talent! Merci beaucoup Hélène Zélani pour le journal de 7h.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Et il est 7h11, la matinale d'Europe 1 continue jusqu'à 9h avec Nico Saliagas et c'est l'heure de retrouver Carole Ferry qui est sur le terrain, Nico.
J'ai Vesoul dans la tête, ça y est.
Ouais, maintenant,
vous êtes où, Carole, ce matin? Bonjour.
Bonjour, je suis devant la mairie d'un village d'un peu plus de 1200 habitants à Saillant, dans la Drôme. Une particularité ici, tout le monde décide à égalité. Vous avez bien un maire, car c'est la loi, mais dans les faits, c'est surtout pour la forme, hein, car toutes les décisions sont prises à 13, les 13 membres de la liste élus aux dernières municipales, parmi lesquels Agnès, éducatrice, et Patrick, c'est l'ancien médecin du village.
Voilà, vous allez voir cette belle salle municipale qui est classée au monument historique.
Vous avez bien le portrait du président Macron?
Bien sûr, ça c'est obligatoire.
Alors, qu'est-ce qui différencie le fonctionnement de votre mairie et une mairie traditionnelle?
C'était le fait que nous ayons tous voix à la discussion sur tous les sujets, ensemble.
Un exemple, les parents d'élèves ont demandé à ce qu'on travaille sur la sécurisation de l'école. Donc, il y a un groupe action-projet qui s'est mis en place avec élus, garde champêtre, parce que c'est quand même quelqu'un qui, au niveau de la sécurité, a quand même pas mal de formation et de connaissances, et des parents d'élèves. Et ensemble, ils ont proposé donc, de réaménager un petit peu des parkings au-dessus pour faire un passage pour les enfants, de mettre des arrêts-minutes, et puis d'inverser un sens de circulation.
Personne n'a une voix supérieure à l'autre?
Absolument pas. Alors là, c'est l'égalité des voix et la voix du maire n'a aucune valeur supplémentaire par rapport à celle des élus.
Le primus inter pares, une démocratie participative, en fait. Carole Ferry qui fait rêver, en fait. Mais est-ce qu'après 4 ans d'expérience, ça marche vraiment?
Alors, il y a du positif. Hein. Le concept a attiré de nouveaux habitants. L'école affiche complet, de nouveaux commerces sont ouverts. Après, j'ai entendu pas mal de critiques, faut le dire, sur l'inertie de la mairie. Et les élus le reconnaissent. Chaque décision est plus complexe à mettre en œuvre.
C'est pas compliqué en soi, c'est long. Beaucoup d'allers-retours, beaucoup de la sécurisation de l'école. C'était 5-6 réunions par an, garde champêtre, élus. Ensuite, faire les appels d'offres pour la signalisation, voir les services techniques pour peindre le passage des enfants à un autre endroit. Des tas de petites choses qui, effectivement, décidées par une seule personne, iraient plus vite. En même temps, les gens s'en sentent responsables. Et maintenant, c'est des parents d'élèves qui disent il faudrait peut-être revoir pour modifier un petit peu le passage ou... Au lieu de venir simplement rouspéter, ils font des propositions.
Est-ce que l'équipe va se représenter aux prochaines élections municipales, Carole Ferry?
Alors certains sont prêts, d'autres trouvent que c'est beaucoup de travail, surtout quand vous avez un emploi à côté, d'autant que l'équipe a dû tout apprendre, le fonctionnement d'un budget, la contrainte des lois anciennes, nouvelles, donc rien n'est encore tranché.
Et on suit tout ça, Carole Ferry, à Saillant, dans la Drôme, petit village qui expérimente la démocratie participative. Vous êtes tous ce matin, c'est tous les jours sur Europe 1.
Europe 1.
Il est 7h14, restez avec nous sur Europe 1, suivre Nico Saliagas.
Dans quelques instants, Nicolas Barré en direct de la neige puisqu'il est à Davos. Et puis on apprend à l'instant sur Twitter, c'est Marie qui nous apprend avec le hashtag E1 neige qu'il neige actuellement en Haute-Normandie. À 7h20, Europe 1 va plus loin en immersion dans la peau des agents secrets du renseignement pénitentiaire. Ce sont des agents infiltrés dans les prisons françaises et ce, pour lutter contre la radicalisation islamiste. On vous dit tout dans une enquête passionnante à suivre
dans un instant. Bon réveil à tous sur Europe 1.
7h-9h, Nikos Aliagas sur Europe 1.
Il est 7h17, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
Nouveau refus pour Carlos Ghosn, le tribunal de Tokyo a rejeté sa demande de libération sous caution. Le patron de Nissan avait promis de rester au Japon s'il était relâché. Coup d'envoi des inscriptions sur Parcoursup. Aujourd'hui, les élèves de terminale peuvent commencer à formuler leurs vœux pour l'enseignement supérieur. Ils ont jusqu'au 14 mars. L'équipe de France de handball qualifiée pour les demi-finales du Mondial avant même leur dernière rencontre de groupe. C'est grâce à la victoire de l'Allemagne face à la Croatie hier soir. Et puis un mot de météo, 24 départements en alerte orange-neige. Du verglas, du nord au centre du pays, on suit tout sur Europe 1. Prudence, si vous devez vous déplacer en voiture, température cet après-midi de 0 à 12 degrés.
La météo complète avec Laurent Cabrol juste avant 7h30.
Europe 1.
Mais il est 7h17, c'est l'heure de l'édito éco avec Nicolas Barré, Nikos.
Il y a de la neige à Davos, Nicolas Barré, bonjour.
Oui, il y a de la neige, beaucoup de neige.
Alors vous êtes en Suisse dans cette station de ski où se donne rendez-vous chaque année l'élite mondiale. Nicolas, ça ressemble à quoi une station de ski envahie par des chefs d'État et des PDG des plus grandes entreprises de la planète?
Ça ressemble à un camp retranché avec l'armée et la gendarmerie suisse sur les dents, avec des hélicos qui tournent en permanence. Ceux de la police et ceux des grandes secondes, évidemment. Et puis des contrôles partout. Et puis juste à côté, des pistes de ski magnifiques, pratiquement désertes.
Oui.
Enfin, au-delà de ça, il règne ici une ambiance comme on n'en a jamais connue.
Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la fête?
Ben non, au contraire, je crois que le fossé n'a jamais été aussi grand entre les élites, a fortiori c'est les élites mondiales et les peuples. Les 3000 participants à Davos d'ailleurs en sont conscients.
C'est pas très à la mode le mot élite en ce moment. Hein.
Exactement, et ils incarnent tout ce que les populistes rejettent, l'ouverture, la mondialisation, signe d'un malaise profond. D'ailleurs, trois des principaux dirigeants qui auraient dû venir ont été empêchés pour des raisons politiques internes. Trump à cause de la crise politique à Washington qui paralyse son administration fédérale. Theresa May à cause du piège du Brexit. Et puis Emmanuel Macron, bien sûr, à cause de la crise des Gilets jaunes. La grande vedette, en revanche, ce sera le nouveau président du Brésil, un populiste de droite, qui pour l'instant s'accommode d'ailleurs plutôt bien avec les milieux d'affaires.
Jair Bolsonaro, c'est quoi le sujet principal à Davos cette année, Nicolas? On va parler de quoi?
Le premier grand sujet, ça pourrait être comment sauver le capitalisme contre lui-même. Si vous voulez, beaucoup de dirigeants, à commencer par le fondateur du forum, le professeur Schwab, qui est un grand universitaire, pense que le populisme, c'est au fond le symptôme d'un système qui fabrique trop d'inégalités, qui n'est pas assez inclusif, comme on dit, et que ce grand écart entre les élites économiques et la population n'est pas tenable. Et puis, Davos, c'est aussi l'occasion de prendre le pouls d'une économie mondiale qui ralentit, qui nous prépare peut-être sa prochaine grande crise comme en 2008. Oui. Enfin bref, vous le voyez, l'ambiance est inquiète avec des élites qui, au fond, ne savent pas trop où va le monde.
Où va le monde? Bah, s'ils veulent changer le monde, les décideurs et les élites, ils devraient commencer peut-être par le rêver. Nicolas Barré en direct de Davos, évidemment, on retrouvera ses informations, ses rencontres, ses entretiens exclusifs sur l'antenne d'Europe 1 tout au long de la journée.
Europe 1, Nikos Aliagas.
Il est 7h20, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin en immersion dans le dernier né des services de renseignement français, le renseignement pénitentiaire.
Des agents secrets en prison. D'ici le mois de mars, des espions un peu particuliers vont devenir un service à part entière du renseignement français. Qui sont-ils? Que font-ils précisément en prison? Bonjour Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1.
Bonjour.
Alors vous avez eu l'autorisation, de façon très exceptionnelle, de pénétrer dans la cellule du renseignement pénitentiaire de Strasbourg. Racontez-nous.
Oui, et de passer donc cette porte blindée qui sépare leur bureau de ceux du reste de l'administration pénitentiaire. Blindée avec badge et code, parce que c'est une zone protégée. Depuis les fenêtres de la CIRP, la cellule interrégionale du renseignement pénitentiaire, on voit les murs de la maison d'arrêt de Strasbourg, mais les agents y travaillent pour tout le secteur Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, 24 établissements pénitentiaires, 6200 détenus. Sur la zone, une centaine de personnes sont suivies au titre de la radicalisation et les agents ont aussi dans leur radar les profils du grand banditisme et ceux susceptibles d'évasion violente type Redouane Faïd.
Quel est leur profil, Salomé Legrand?
Alors, il y a une poignée d'agents clairement identifiés, à temps plein, et une quarantaine sous couverture qui travaillent dans tous les lieux de vie des prisons, la restauration, les ateliers, chefs d'unité, et qui ont la double casquette, leur boulot et celui d'agents du renseignement. Virginie les coordonne.
Un co-détenu qui nous explique qu'un autre détenu a des velléités d'évasion. Notre capteur en détention nous fait remonter cette information et son travail, du coup, ça va être de vérifier est-ce qu'il y a un réseau, par exemple, à l'extérieur important. Il va pouvoir le déceler via les correspondances écrites, tout ce qui rentre en détention de l'extérieur, donc l'argent, la téléphonie, les parloirs. Et à partir de ce moment-là, on va suivre attentivement la personne sur cette thématique.
Ça veut dire qu'il y a des détenus qui balancent, c'est ça ?
Eh oui, certains ponctuellement, d'autres sont carrément recrutés et immatriculés. Comme dans n'importe quel service de renseignement, leur fiabilité est testée et elle peut être récompensée, jamais par de l'argent. Mais il y a d'autres possibilités. Charlotte dirige le bureau central du renseignement pénitentiaire.
Si on prend la matière terroriste, on a par exemple des détenus qui ont un engagement citoyen, qui souhaitent nous remonter de l'information parce qu'ils estiment que c'est important. Après, on a aussi des détenus qui collaborent parce qu'ils espèrent en retour une amélioration des conditions de détention. Pour ce faire, on a quelques leviers pénitentiaires, favoriser ou accélérer un transfert d'établissement, changer un détenu de cellule pour lui permettre d'être avec un co-détenu avec qui il s'entendra mieux, voire la possibilité de lui permettre de travailler en prison.
Et pour rester discret, tous les moyens sont bons, y compris organiser une rencontre lors d'un rendez-vous médical ou chez le juge pour que l'agent puisse échanger en toute sécurité avec sa source.
Est-ce qu'il y a des agents secrets qui se font passer pour des détenus ?
Non.
Sans les mettre en danger ?
Non. Non.
Donc c'est vraiment un service de renseignement sur le terrain en fait.
Avec les mêmes moyens techniques et juridiques que ceux accordés à la DGSI par exemple. Craquer le code d'un téléphone portable, poser un micro dans une cellule, une caméra dans un parloir, intercepter les conversations téléphoniques ou internet. Jérôme est l'un des trois analystes qui travaille sur les données extraites des téléphones portables retrouvés lors des fouilles.
Les détenus se servent des smartphones pour aller sur des sites de jeux en ligne. Donc en établissement ils peuvent trentiner des objets et ils se font payer en passant par l'intermédiaire des comptes Winamax. C'est des choses qui se passent le soir, quand les cellules sont fermées, qui sont tranquilles en détention. On fait un sociogramme pour voir qui est en relation avec qui, les SMS qui ont été échangés, avec des relations entre détenus et des flux financiers qui ne sont pas visibles. Et ça permet de compléter des renseignements provenant des établissements.
Que deviennent ces renseignements ? Que deviennent ces infos, Salomé Legrand ?
Eh bien, soit elles sont transmises à la justice en cas de trafic ou de projet d'évasion clairement identifié, soit elles servent à l'administration pénitentiaire pour isoler un meneur, par exemple, soit elles s'échangent avec les autres services pour assurer la continuité du suivi entre la prison et l'extérieur. C'est évidemment le cas pour les profils radicalisés qui vont sortir. À Strasbourg, deux personnes passent chaque semaine toute la liste des objectifs dans leur logiciel pour vérifier qu'une date de sortie ou une remise de peine n'a pas été oubliée.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1 pour cette plongée au cœur du renseignement pénitentiaire. On se croirait dans un film. Merci Salomé.
Europe 1,
il est 7h24.
La neige, on vous informe dans quelques instants sur la neige près de chez vous. D'ailleurs, c'est Boris sur Twitter qui nous dit à 13 vers Paris, ça roule pas. Comment 2 cm peuvent bloquer une autoroute ? Et il nous envoie une photo. On retweet et on partage. Anissa Mbida, vous avez un système pour savoir si les politiques disent la vérité.
Oui, un fact-checking en temps réel.
Vraiment, ça existe.
On va voir.
À tout de suite.
Il est 7h27, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, c'est avec Anissa Mbida, Nikos.
Absolument. Dans un instant, Laurent Cabrol nous dit tout sur la neige. Tiens, il commence à neiger sur l'île. Mais pour l'instant, on va parler des fake news qui traînent un peu partout. Sur le net notamment, il y en a de plus en plus. Et on a besoin d'un fact-checking, comme disent les anglo-saxons concrètement. Des personnes, des journalistes qui vérifient ces informations. Sauf que ça coûte cher et que c'est long. Et il faut du temps pour faire les investigations. Mais vous avez une application pour vérifier si l'info est vraie ou fake ou bidon, en fait, c'est ça. Expliquez-nous, Anis.
Oui, ça fonctionnera un peu comme l'application Shazam, je ne sais pas si vous voyez, hein. C'est à peu près la même chose, elle va écouter le discours du politique, retranscrire tout ce qui est dit, l'analyser.
Pourquoi le politique ?
Parce que ça a été fait pour les politiques à la base,
pour
les discours des politiques en temps réel. Hein. Vraiment, c'est pas pour les news qui sont déjà écrites, c'est pour les discours en temps réel.
D'accord.
Donc il va vous dire, attention, là c'est pas tout à fait vrai, il oublie de prendre en compte tel ou tel point où ce chiffre n'a pas été démontré, il y a même une étude qui dit totalement le contraire. Tout ça directement sur votre téléphone portable, donc pas besoin d'aller sur un site pour vérifier un peu plus tard. On aura toujours tout sous la main pendant le discours du politique.
C'est une intelligence artificielle en fait, c'est une appli, c'est ça ?
Alors c'est une intelligence artificielle qui fait le lien, mais ce sont des humains qui sont derrière, parce que ce serait trop compliqué de vérifier les informations pour un ordinateur. En fait, il s'appuie sur une base de données, des faits déjà vérifiés par des spécialistes. Il part en fait du principe que les politiques se répètent, même quand on a démontré que c'était faux.
D'accord, donc une base de données, c'est ça.
Voilà, alors c'est un peu le problème c'est la limite du temps réel. Hein. Si jamais l'information n'a pas été déjà développée, il sera incapable de donner, de vérifier.
C'est la limite du truc.
C'est la limite du truc. Hein. Donc il faut absolument, il faut qu'il soit sûr de lui pour pouvoir donner la moindre appréciation. C'est un projet de l'université Duke aux États-Unis. Mm-hmm. La première version devrait être disponible au printemps. Et je pense que ce sont d'abord les journalistes qui vont la passer au crible.
Merci Anissa Mbida. Bien, la reine de l'anti-fake news arrive. C'est Céline Kalman, c'est juste après ça. Dans un instant.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Se chauffer, s'éclairer, se déplacer. Aujourd'hui, EDF innove au cœur des territoires pour accélérer la transition énergétique. Plus d'infos sur edf.fr. Vous l'avez dit, Céline Kalman arrive dans quelques minutes. Mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabron-Nicos.
Pas mal de tweets depuis tout à l'heure, de photographies de neige qui arrivent notamment en Normandie, en Haute-Normandie, à Lille aussi. Vous suivez ça, le flocon à la trace avec votre loupe, Laurent Cabron?
Bien sûr, je le suis et ça n'est pas simple. Alors, où est la perturbation en ce moment? Sur un axe qui va de Dunkerque à Rouen, au Mans, à Tours et à Poitiers. Il s'agit d'une perturbation qui est tantôt pluvieuse, tantôt neigeuse. Quel sera le trajet de la neige? La région parisienne, c'est dans peu de temps. Dans moins d'une heure, je pense que Paris
sera touché. Pour les
gens
qui partent travailler en voiture, soyez prudents alors.
Et cela va commencer par la banlieue ouest, puisque elle vient de l'ouest. Mmh. Au même moment, dans la matinée, la Champagne, la Touraine, le Loiret, le Cher, l'Indre-et-Loire et Lyon seront concernés. Et dans l'après-midi, la Lorraine, le Morvan et l'Auvergne. Et il y aura en moyenne 3 à 5 cm d'épaisseur pour une durée de chute de 3 à 5 heures. Mmh. Mais la tendance sera à la fonte dans le courant de l'après-midi, de sorte que ça va aller beaucoup mieux, mais la nuit prochaine, un autre épisode va se dessiner et nous aurons jusqu'à encore 3 à 5 cm la nuit prochaine sous la forme de giboulées.
Et vous l'avez dit tout à l'heure, près de Rouen, à Oissel, il y a déjà une fine couche de neige, il commence à neiger.
D'un mot juste pour dire que le littoral de la Manche, ce sont des giboulées, souvent de pluie, littoral atlantique des éclaircies, le sud-ouest de la pluie et à l'écart, dans des éclaircies encore provisoires, l'Alsace, la Franche-Comté, Rhône-Alpes et le bassin méditerranéen.
Merci beaucoup Laurent Cabron, à tout à l'heure.
Et continuez à nous envoyer vos messages avec le hashtag E1Neige. Nous sommes le mardi 22 janvier, il est 7h31.
7h, 9h. Nico Saliagas sur Europe 1.
Bonjour Céline Kalman.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Parcoursup, c'est reparti. Que faire après le bac? Les candidats peuvent à partir d'aujourd'hui déposer leur premier souhait. La plateforme a été remaniée après les problèmes rencontrés l'année dernière. Les lycéens sont stressés par cette formulation des vœux, 57%, tout comme certains parents. Mais ce n'est pas le cas de Marie, maman d'Anatole en terminale ES.
On va miser sur Parcoursup, remplir Parcoursup, et pour autant, je n'ai aucune inquiétude. Oui, il y a eu énormément de bugs l'année dernière, j'ai suivi ça de près, mais j'ai l'impression qu'ils ont corrigé l'énorme écueil de l'année dernière. Voilà. Et à l'époque, quand on voulait s'inscrire à Assas, on dormait, donc on campait devant la fac rue d'Assas toute la nuit. Donc, si vous voulez, Parcoursup, pour moi, c'est un énorme progrès. Celui qui est concerné par Parcoursup est beaucoup plus inquiet que moi. Il suffit d'aller au lycée, entre eux, ils en parlent, comme d'un truc mystérieux, inquiétant, l'outil ultime qui laisse des gens sur le bord de la route. Donc effectivement, eux, ils ont ça en ligne de mire, donc ça les inquiète.
Marie au micro Europe 1 de Virginie Salmen. 24 départements sont ce matin en vigilance orange, on l'a vu avec Laurent Cabron, la neige tombe déjà depuis quelques heures sur la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, on attend plusieurs centimètres sur l'Île-de-France, la vitesse y est d'ailleurs limitée à 80 km/h, la Nationale 118 est fermée au poids lourd depuis 6h ce matin et les saleuses sont en action, par ailleurs 7 départements, quant à l'Ardenne, Haute-Marne, Nord, Eure, Seine-Maritime et Var, ont activé leur plan grand froid pour l'hébergement des sans-abri.
Presque 5 mois qu'il a démissionné. Mais Nicolas Hulot esquisse déjà les contours de son retour.
Oui, dans une interview mise en ligne sur le site de la radio-télévision suisse, l'ancien ministre de l'écologie veut rester engagé pour changer les choses.
Moi, je suis au service de tout le monde. Quand on me demande, je dialogue. Si je reviens, je ne l'ai pas encore décidé totalement avec ma fondation. C'est pour mettre à disposition. Et puis, il y a quelque chose qui ne vous lâche jamais, c'est les citoyens et les citoyennes qui vous font confiance et qui vous rappellent à l'ordre. Donc, je prolongerai mon engagement. Mais je veux trouver une forme utile, une forme inédite. J'avais envie de dire à Emmanuel Macron, quand on décide les énergies renouvelables, on y va à fond.
Petit pas, c'est fini.
Mais non, ça servira à rien. Si vous voulez que les choses soient abordables pour les citoyens, il faut les faire à grande échelle. L'énergie renouvelable, le soleil est gratuit, le vent est gratuit, le mouvement des vagues est gratuit. Le jour où on sait capter cette énergie, mais vous changez la face du monde. Mais il faut y aller à fond.
Nicolas Hulot à la radio-télévision suisse. Emmanuel Macron sera aujourd'hui aux côtés d'Angela Merkel à Aix-la-Chapelle en Allemagne. Les deux dirigeants vont signer un nouveau traité franco-allemand pour tenter de relancer l'Union européenne. La secrétaire d'État à l'égalité entre
entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, va co-animer vendredi sur C8 une émission spéciale avec Cyril Hanouna autour du grand débat national.
C'est vrai que c'est un choix surprenant. On n'a jamais vu un membre du gouvernement co-animer une émission de télévision avec un animateur de divertissement. Est-ce qu'elle a eu l'accord de Matignon ou d'Élysée ? Moi, je voudrais bien qu'on l'appelle depuis tout à l'heure. Je m'adresse à Christophe Carré, Thierry Dagiral, rédacteur en chef en régie. Essayez d'appeler la ministre. On essaiera de la voir tout à l'heure avec Jean-Michel Apathy.
Europe 1, 7h34.
Faut-il abroger la loi qui pénalise les clients des prostituées ? C'est la question à laquelle doit répondre aujourd'hui le Conseil constitutionnel.
Oui, il y a débat, mais un sondage Ipsos révèle que près de 80% des Français sont pour le maintien de cette loi. Pour Grégoire Théry de Cap International, Coalition pour l'abolition de la prostitution, le nouveau texte a permis de changer les mentalités. Les Français estiment que les prostituées sont avant tout des victimes.
On est sorti de ce qu'on entendait il y a peut-être 10 ans sur c'est un métier comme un autre, elles aiment ça, c'est leur choix, etc. Donc l'enjeu qui est posé aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel est absolument fondamental et même vertigineux, parce que si le Conseil constitutionnel abroge demain la pénalisation de l'achat d'un acte sexuel, alors c'est toute la philosophie abolitionniste de la France qui reconnaît la prostitution comme une violence et non pas comme un marché, non pas comme une libre entreprise, qui serait remise en cause.
Grégoire Théry avec Romain Noquet, une position que dénoncent 9 associations qui ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité. En clair pour eux, cette loi a des effets pervers, comme l'explique Maître Spinozzi, l'avocat de ces associations.
Les prostituées qui travaillent dans la rue sont précarisées, elles sont obligées d'accepter des conditions de travail qu'elles n'acceptaient pas auparavant, des clients qu'elles n'acceptaient pas auparavant. Le rapport de force s'est inversé. Les clients imposent un isolement, une clandestinité, avec quelquefois des violences. Donc cette loi, qui voulait protéger les prostituées, est une mauvaise loi qu'il faut retirer.
Maître Spinozzi avec Pierre de Cossette.
Un mot de sport, c'est bien de se qualifier sans jouer. Ben oui, parce que la France a son billet pour les demi-finales de mondial de handball. Comment elle a fait ?
Ben les Bleus n'ont pas mis un pied sur le parquet, mais ils sont qualifiés grâce à la victoire de l'Allemagne sur la Croatie. Pour Cyril Dumoulin, deuxième gardien derrière Vincent Gérard, le parcours des Français est sans faute.
Bah, ça montre toute la qualité du travail qui est fait à tous les niveaux dans le handball français, parce qu'il y a le renouvellement des générations et tout ça, et on le voit encore sur cette compétition avec des petits jeunes entre guillemets qui portent équipe. Le plus dur reste à faire, mais le plus beau reste à vivre aussi. Bien sûr, quand t'es en demi-finale, tu la joues pour aller chercher la finale et pour aller chercher le titre. Ce dernier carré était vraiment l'objectif. Il va falloir tout donner, tout lâcher, parce qu'encore une fois, il y a de belles choses à vivre, mais les belles choses ont toujours un prix. Et on le connaît et je crois qu'on est tous prêts à le payer. Et maintenant, il va falloir passer à la caisse.
Cyril Dumoulin avec Christophe Lamarre. Et puis, c'était cette nuit la qualification du grec Stefano Tsitsipas en demi-finale de l'Open d'Australie à Melbourne devant des supporters en folie, vous l'entendez. Une grosse communauté grecque à Melbourne, le sortant
plus
de Roger.
Plus d'un million de Grecs en Australie.
Voilà, le sortant de Roger Federer est âgé de seulement 20 ans.
Ah ouais, je l'ai tout appris.
Là, il a sorti l'espagnol Roberto Bautista.
Facile, hein. Ouais, c'est ce que je lui avais dit hier soir, je l'avais appelé. Mais bon, ça m'a pris du temps.
C'est grâce à vous, donc.
Ouais, bah oui, à 13 ans, ses parents me l'ont emmené, on était sur une plage, je lui ai appris à jouer. D'abord, on a fait des raquettes. Ouais, on joue aux raquettes. Merci pour le journal, Céline Kallmann.
Europe 1. Et il est 7h37.
Monsieur Apathy, on parle de quoi ce matin ?
Eh bien, on parle d'une émission télé hors norme. Hanouna Schiappa qui vont animer une émission vendredi soir sur C8 consacrée au grand débat. Les réseaux sociaux crient au scandale.
Oui, j'ai entendu, ouais.
On verra s'ils ont raison ou pas de crier au scandale. À mon avis, non, mais enfin, je vous dirai ça.
Bon, on va essayer d'avoir la ministre aussi. Je crois qu'on a peut-être un élément d'information. Axel de Tarlé, on parle de quoi tout à l'heure ?
Eh bien, on est en train de se demander si la Chine n'est pas en train de plonger économiquement. Vous avez bien entendu, plonger.
Le géant chinois ?
Oui. Déstabilisé.
Apathy Tarlé dans un instant sur Europe 1. Bon réveil à tous. Il neige. Il commence à neiger parfois.
7h-9h, Nico Saliagas sur Europe 1.
Il est 7h41, Nico Saliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Le grand débat national qui a donc commencé officiellement partout en France, des débats locaux qui s'organisent dans les mairies, dans les cafés, dans les associations et bientôt sur un plateau télé. Ouais. La nouvelle a fait grand bruit hier soir, la secrétaire d'État Marlène Schiappa et Cyril Hanouna vont animer ensemble une émission avec des gilets jaunes vendredi soir sur C8. Jean-Michel Apathy.
On ne sait pas à quoi ressemblera cette émission de télé, Nikos, on jugera sur pièce, mais quand un ministre co-anime une émission de télé, ça c'est évidemment, c'est assez rare. Alors C8 définit cette émission comme ça, Cyril Hanouna, Marlène Schiappa, retraités, infirmiers, demandeurs d'emploi, commerçants, enseignants, agriculteurs seront sur le tableau de Balance ton, sur le plateau pardon, de Balance ton poste, donc ça promet un joyeux désordre. Ensemble, nous tenterons de transformer leurs problèmes en propositions. Bon, c'est très bien. Mmh. Et les téléspectateurs voteront en direct pour retenir 7 idées qui seront transmises au gouvernement. C'est vrai que le gouvernement a encore moins d'idées que d'argent, donc c'est bien d'aider le gouvernement. Alors, dès que la nouvelle a été connue que Marlène Schiappa et Cyril Hanouna seraient ensemble pour animer une émission de télévision, ça a été un déchaînement sur les réseaux sociaux. On tombe bien bas, mais pour qui on nous prend, c'est de la manipulation. Bon, tout ça est un peu stupide pour deux raisons. D'abord, parce que je trouve que le fait que Cyril Hanouna mette son talent d'animateur et donc de médiateur au service de ce grand débat, c'est une bonne chose. D'autre part, ce grand débat, c'est une initiative nous n'avons jamais connue, il n'y a pas de précédent. Donc c'est bien qu'il y ait un peu de désordre, des choses qui nous surprennent, que des débats soient organisés d'une manière à laquelle on n'est pas habitué. Mais bien sûr, c'est bien. Et puis on verra bien quelle place occupera Marlène Schiappa, est-ce qu'elle sera à sa place ou pas à sa place. On est assez grande fille et grand garçon pour juger.
On va lui demander, tiens.
Tout ça, ouais, voilà. On va lui demander, tout ça, on le verra sur pièce. De vous à moi, je préfère l'hypothèse de cette émission à l'acte 3 qui se prépare jeudi prochain. Est-ce que vous savez ce que c'est l'acte 3 ?
Expliquez-moi.
Eh bien, c'est Emmanuel Macron qui, pour la troisième fois, va être devant les maires. Et on en sera déjà à s'extasier. Alors, la dernière fois, c'était 6h40 de débat. Là, ça va être 7h, 8h. Un jour, on fera le tour du cadran en 24h. Et puis, on me dira, ah, ce président, il a réponse à tout, il est formidable. Moi, j'en ai un petit peu ras-le-bol quand même. Le grand débat, c'est pas le Macron show. Ça commence à devenir problématique. Il devrait y avoir au total 13 réunions avec les maires. Non, le grand débat, c'est les citoyens qui prennent la parole et le président qui tire les leçons de cette prise de parole géante.
Mais il faut bien informer. On lui a reproché d'être loin des gens.
On n'a pas besoin de lui, parce que lui, ça va, il a déjà répondu deux fois au maire, on n'a pas besoin d'une troisième. L'émission Hanouna Schiappa, c'est une bonne hypothèse. Ça m'a fait penser à un mot d'ordre que le président Mao donnait dans les années 50.
Mao Tse-tung,
le président chinois, il avait ouvert un débat au sein du Parti communiste. Après, il a enfermé tout le monde, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Il avait ouvert un débat au sein du Parti communiste chinois dans les années 50 en disant que 100 fleurs s'épanouissent. Eh bien, c'est ça qui doit se passer en France. Que 100 fleurs s'épanouissent, que 1000 fleurs s'épanouissent, que 10 000 fleurs s'épanouissent. Et rendez-vous sur C8 à 22h30.
Attention, fleurs, il y a des épines parfois. Merci beaucoup, Jean-Michel Apathy, avec nous en ligne. Justement, la ministre Marlène Schiappa, bonjour.
Bonjour.
Vous l'avez entendu, Jean-Michel Apathy ?
Je l'ai très bien entendu.
Et alors,
magnifique chronique.
Une petite réaction. Il a raison ou pas d'aller sur le terrain, le président de la République ?
Alors, sur la partie du président de la République, je suis évidemment pas en face parce que je crois qu'on ne peut pas à la fois demander que le président sorte et parle aux Français et puis déplorer quand il le fait. Et je pense qu'il faut quand même saluer les performances incroyables d'endurance. On a vu qu'on avait un président très solide sur le fond des dossiers qui pouvait répondre justement à toutes les demandes des maires.
D'accord.
Donc là, je suis évidemment pas en phase. Néanmoins, je remercie M. Apathy d'avoir perçu la subtilité de ce que l'on organise. Parce que c'est vrai que Twitter s'enflamme assez facilement.
C'était violent hier soir. J'ai vu que fait la ministre avec Cyril Hanouna. C'est de l'info-spectacle de bas étage. Vous répondez vous quoi savez, Pourquoi c'est... vous le faites déjà?
Alors d'abord, ça, c'est un espèce de réflexe de Pavlov qui fait que dès qu'on fait quelque chose qui sort des codes, tout le monde s'indigne. Dès qu'on fait autre chose que d'aller sur un format classique, les gens s'indignent. Mais j'ai fini par avoir l'habitude, quand j'ai délocalisé mon cabinet à Trappes, ou quand j'ai joué les monologues du vagin avec Myriam El Khomri et Rosine Bachelot, ou quand j'ai invité Raphaël Intoven aux universités de pété du féministe, Twitter s'est enflammé, s'est indigné, pour finalement considérer que ça pouvait être aussi une manière nouvelle de faire de la politique.
D'accord.
Donc là, moi, l'idée, c'est de dire que Cyril Hanouna, ça fait des semaines qu'il invite des gilets jaunes, le grand débat national s'ouvre enfin, donc je ne vais pas animer la partie émission, le show, ça reste...
Vous n'allez pas faire l'animatrice avec des appels au vote ou des choses comme ça?
Alors non, ça c'est le travail de Cyril Hanouna. Moi je viens avec mes paperboards, mes petits feutres Velleda et on va faire un atelier constructif, un véritable atelier enregistré sur le site du Grand Débat National. Pourquoi ? D'abord parce que ça nous permet de parler de ce grand débat à 700 000 personnes qui regardent l'émission de Cyril Hanouna.
Donc vous considérez qu'il y a un déficit d'information du côté du gouvernement ? C'est difficile d'expliquer, d'être proche des gens ? C'est pour ça que vous allez aussi dans un autre registre ?
Oui. C'est un format nouveau, le Grand Débat National. Donc, il y a encore des gens qui sont de bonne volonté, qui ont envie d'y participer, mais qui ne savent pas exactement comment faire. C'est une manière un peu ludique, un peu nouvelle, un peu pédagogique de leur montrer qu'un grand débat, c'est pas forcément quelque chose d'ennuyeux, c'est pas forcément quelque chose qui n'est pas fait pour eux, mais au contraire, de ramener le plus grand nombre possible de personnes vers le débat politique, vers le débat public.
Merci Marlène Schiappa. Est-ce qu'on demande l'autorisation au président, au Premier ministre, quand on est sur un plateau de télévision, de divertissement ou de grand débat, de quelque chose de nouveau ?
Alors, le président et le Premier ministre sont un petit peu occupés, mais on est en lien permanent avec leurs conseillers sur ces sujets.
Merci d'avoir été avec nous et bonne émission. Ce sera vendredi, donc j'imagine. À quelle heure sur C8 ?
22h30, je crois.
En direct. Merci beaucoup avec Cyril Hanouna.
Et tout de suite, on retrouve Axel de Tarlé. C'est l'heure du Zoom Éco, Nikos Hadiagas.
Bonjour Axel de Tarlé.
Bonjour Nikos.
Parlons un petit peu de ce qui se passe en Chine. Vous nous disiez tout à l'heure que la croissance chinoise tombe à son plus bas niveau. Depuis 28 ans, c'est inquiétant et cela peut avoir des conséquences même pour nous ici en France.
Oui, alors ça peut paraître un peu lunaire ce que je vais vous dire, mais la croissance chinoise tombe à 6,6%. Alors pour nous, c'est énorme 6,6%, mais enfin, il faut voir que les Chinois, ils venaient de plus de 10% de croissance. Et puis, il y a une deuxième chose qui se passe en Chine, dont on parle peu, c'est la chute de la bourse de Shenzhen ou la bourse de Hong Kong. Si bien qu'il y en a certains qui commencent à se demander si la Chine n'est pas en train de vivre sa crise de 1929, vous voyez ce qu'a vécu l'Amérique en 1929, ou encore il y a d'autres comparaisons qui disent est-ce que la Chine n'est pas en train de vivre la fin de ses 30 glorieuses qu'on a vécues nous. On voit bien, on se demande si la Chine n'est pas à la fin d'un cycle. C'est quoi ce cycle? Eh bien la Chine, depuis 40 ans, à coup d'investissement public, a construit des routes, des autoroutes, des ponts, des aéroports, avec une main-d'œuvre pas chère venue des campagnes. Eh bien cette période de rattrapage économique touche à sa fin. Et la Chine doit maintenant s'inventer un nouveau modèle. Elle doit passer du « construire plus » au « vivre mieux ». Parce qu'à un moment, le développement économique, ça sert aussi à ça. Ça sert à ce que les gens vivent mieux. Mais vous voyez, changer de modèle, c'est toujours compliqué. On le voit avec cette croissance économique qui est tombée en Chine, je vous le dis, à son plus bas niveau depuis près de 30 ans.
Mais quelles conséquences pour nous, Axel de Tarlé? Est-ce que ça peut nous toucher en France, ce qui se passe en Chine?
Alors bien sûr, quand la deuxième économie du monde ralentit, ça touche le monde entier. Bah, regardez, on l'a dit la semaine dernière, les ventes de Peugeot Citroën en Chine ont chuté l'an dernier de 32%, moins 32%. Et puis, ça crée aussi des tensions politique en Chine. Parce que vous savez, il y a comme un accord tacite avec la population chinoise. Les Chinois acceptent l'autoritarisme politique tant que la croissance est forte et que le pays s'enrichit. Mais si l'économie cale, eh bien, ça devient problématique. Et d'ailleurs, on commence à entendre en Chine des critiques contre l'autoritarisme du président Xi Jinping qui aurait donné un visage inquiétant de la Chine dans le monde entier, et c'est vrai, avec en retour une guerre commerciale déclenchée par Donald Trump contre la Chine. Donc vous voyez, ce ralentissement de la croissance, il n'a rien d'anodin, conséquences économiques bien sûr, mais aussi peut-être bien politique.
Merci Axel de Tarlé. On va passer de la Chine à l'Afrique du Sud dans quelques instants parce que je vais recevoir le petit-fils de Nelson Mandela. Oui, le petit-fils de Mandela, il s'appelle Indaba Mandela. Il vient de sortir un livre passionnant avec les leçons de vie héritées par son grand-père. Il nous dit tout sur Europe 1 juste après ça.
Il est 7h49.
7h-9h. Nikos Aliagas sur Europe 1.
Il est 7h50, Nikos Aliagas, votre invité ce matin est le petit-fils de Nelson Mandela. Il raconte dans un livre sa rencontre avec son grand-père alors qu'il avait 7 ans. Indaba Mandela a 36 ans aujourd'hui et s'occupe de l'association Africa Rising pour lutter contre le sida et défendre les intérêts de l'Afrique.
Bonjour Indaba Mandela.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Vous publiez un ouvrage pour le 100e anniversaire de la naissance de votre grand-père Nelson Mandela où vous racontez 11 leçon de sagesse de vie.
Yes.
C'était une nécessité pour vous de revenir sur ce lien à la fois personnel que vous aviez avec votre grand-père, mais aussi un lien un peu plus philosophique.
Yes, of course.
Et c'était effectivement les deux. Quand j'étais jeune, m'a pris sous son aile à l'âge de 11 ans. Et tous les enseignements que j'ai tirés de lui sont entrés très profondément en moi, puisque je les ai appris très tôt.
Qu'est-ce qu'il attendait de vous, votre grand-père? Qu'est-ce qu'il vous disait justement pour l'avenir quand vous étiez un adolescent?
Vous savez, l'une des premières choses qu'il m'a dit, Dabin, tu es mon petit-fils et de ce fait, ceux qui te regardent te considèrent comme un leader et en tant que tel, tu dois avoir les meilleures notes en classe. Mais moi, je voulais être un enfant comme les autres, je voulais jouer, je voulais m'amuser, je voulais faire les 400 coups, mais mon grand-père, il voulait que j'ai des bons résultats scolaires, et s'il y avait un désordre de ma chambre, il m'y m'engueulait. Hein.
Où est-ce qu'il a trouvé le courage de pardonner après plusieurs décennies en prison, de façon injuste?
Je vais dire, à mon sens, Nelson Mandela, évidemment, a pu voir finalement le mouvement d'indépendance qui avait lieu en Afrique. Il a vu que bien souvent, lorsque les Africains trouvaient l'indépendance, ils voulaient chasser les Européens, ce qui a eu effectivement des effets très négatifs sur le pays, sur l'économie, sur la politique, sur tout. Et il a vu que pour que nous puissions construire un pays qui soit prospère, tout en se débarrassant du cycle de violence et de haine, il fallait pouvoir pardonner. Et je crois que pendant ces 30 ans d'incarcération,
est devenu en quelque sorte un messager de Dieu. Et la plupart des gens autour de nous étaient athées, mais il faut reconnaître qu'il y a un pouvoir au-dessus de nous, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et je pense qu'il a su trouver cette espèce de compréhension universelle qui allait au-delà de l'Afrique, qui touchait l'humanité tout entière. Et c'est ça qui l'a amené à pardonner effectivement ceux qui l'avaient emprisonné pour mettre un terme à ce cycle de violence.
Il a touché à quelque chose de plus profond dans l'humanité. Et quand il est sorti de prison, Nelson Mandela, il n'avait pas de velléité politique. Il ne voulait pas nécessairement devenir président de l'Afrique du Sud.
Effectivement, il n'avait pas cette ambition politique. Il s'est rendu compte, en sortant de prison, qu'il était déconnecté du nouveau monde, puisqu'il avait été en prison pendant une trentaine d'années. Pour lui, c'était un monde effectivement nouveau. Et il estimait qu'il n'était pas à sa juste place pour mener cette nouvelle société, ce nouveau pays. Par contre, il avait une telle pression qu'il n'avait d'autre choix qu'effectivement prendre la présidence, mais il a dit qu'il n'effectuerait qu'un seul mandat. C'est ce qu'il a fait. Ensuite, il est passé à autre chose. Il y a plein de présidents qui n'arrivent pas à tenir leur parole de ce côté-là.
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Afrique? Où est l'héritage de Nelson Mandela, et notamment en Afrique du Sud?
Vous savez, le grand homme nous a laissé un immense héritage, un exemple de leader qui, même s'il a été idolâtré pratiquement, et même tous les chefs d'État se réclament de lui, personne n'a réussi à suivre cet exemple. Lorsqu'on parle de Nelson Mandela, on pense tout de suite à la démocratie. Il faut savoir que beaucoup de gens qui étaient complètement marginalisés, qui n'avaient même pas le droit de voter. Mais vous vous rappelez la commission de vérité et de réconciliation avec Desmond Tutu, où les criminels de l'apartheid ont été réunis avec leurs victimes et il fallait tout dire en échange de quoi ils étaient amnistiés. Eh bien, ça aussi, c'était quelque chose de très poignant dans l'histoire de notre pays, parce que si on n'arrive pas à se ramener autour d'une table, alors à ce moment-là, il n'y a plus d'espoir pour la paix ou pour la construction d'un pays.
Si je vous écoute, ça veut dire qu'en France aujourd'hui, alors que nous vivons une crise sociale avec des manifestations, avec des colères, avec parfois une impossibilité de dialoguer, on doit se mettre autour d'une table et se dire les choses comme l'aurait préconisé votre grand-père Nelson Mandela ?
Mais c'est ce que je dis, absolument. Mais je reconnais qu'il est quelquefois difficile de s'asseoir autour d'une table. Pour moi, je crois que c'est également une question de timing. Il semblerait qu'en France, ces problèmes étaient là depuis longtemps. Ils ne sont pas apparus du jour au lendemain. Ce n'est pas comme ça, du jour au lendemain, que les gens sont décidés d'aller manifester. Je crois que les problèmes étaient sous-jacents depuis longtemps, et puis ils sont remontés à la surface. Et puis là, bon, ils se battent contre ce qu'ils refusent. Mais c'est vrai dans tous les pays. Moi, ce que j'aime beaucoup ici, à Paris, en France, c'est que les gens ont la volonté de faire quelque chose, de réagir, de s'organiser, de faire quelque chose pour traiter le problème, plutôt que de se résigner à dire « voilà, on ne peut rien faire, c'est comme ça ». Non, il y a la vraie volonté de faire changer les choses et de prendre leur destinée entre leurs mains.
Merci d'avoir été notre invité, Ndaba Mandela. Vous êtes le petit-fils de Nelson Mandela et vous avez écrit un ouvrage pour lui rendre hommage intitulé « Le courage de pardonner » aux éditions Marabout. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Europe 1. Il est 7h56.
Dans un instant, la petite histoire de Jean-Philippe Ballas. On va parler de l'accordéoniste Marcel Azola qui nous a quittés. Il y aura aussi dans le journal de David Doucan à 8h un point complet sur la météo et l'arrivée de la neige. A tout de suite.
Il est 7h59, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Nico.
On l'a appris cette nuit, la disparition d'un maître de l'accordéon, Jean-Philippe Ballas, et on le connaissait tous, il s'appelait Marcel. Marcel Azola.
Et c'est lui qui joue derrière. Combien sont-ils les musiciens dont le nom et même le prénom est entré dans le langage courant? 68, enregistrement de Vesoul, deuxième prise, Jacques Brel improvise.
Je te le redis, chauffe Marcel, chauffe.
Chauffe Marcel Azola, le type époustouflant là derrière l'accordéon. Vous l'avez forcément chez vous, à la maison, sur un disque de Piaf, de Montand, de Gréco, de Beco, les films de Jacques Tati, de Claude Sautet. Il jouait partout, avec tout le monde, Marcel Azola, maîtrise parfaite de son instrument, de son histoire et du solfège. C'est le parcours d'un fils d'immigré italien, professionnel dès l'âge de 11 ans. Il va faire ses armes dans les guinguettes, les balmusettes, les cabarets, les brasseries, puis les studios, les salles de concert. Il va porter haut, très haut, tôt les boutons de nacre de son piano à bretelles. Il va pousser pour le faire entrer dans les cercles exigeants au Conservatoire de Paris ou dans les clubs de jazz. Marcel Azola avait 91 ans, mais il jouait encore il y a quelques mois avec sa compagne, avec le même sourire timide, la même gentillesse. Il avait une jolie formule, il disait « L'accordéon, on le tient contre soi comme quelqu'un qu'on aime ». Vous savez quoi? Ça doit bien chauffer là-haut.
J'irai pas à Paris, d'ailleurs j'ai horreur de tous les flanflans, de la valse musette et de l'accordéon.
La petite histoire du jour avec Jean-Philippe Ballas.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous réveiller en ce mardi 22 janvier.
Bon réveil, bonne journée.
Il est 8h.
Le journal de David Doucan.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Bonjour, trois titres à la une ce matin David.
Attention à la grippe, l'épidémie s'installe, le pic de contagion pourrait intervenir dans les deux semaines qui viennent. Reportage à Paris avec SOS Médecins dès le début de ce journal. Elle prend son temps, mais elle arrive. Je vous parle de la neige, le nord et le centre du pays se préparent. L'ami Laurent Cabrol sera avec nous. Et puis si nous transformions la Lune en station-service de l'espace, c'est le projet de l'Agence spatiale européenne. Figurez-vous qu'il y a du carburant sur notre satellite.
8h15, la ministre de l'Europe, Nathalie Loiseau, sera dans nos studios. On parlera de l'impasse du Brexit et répondra aux questions d'Audrey Crespo-Mara.
Europe 1.
La grippe s'installe, Occitanie, Bourgogne, Franche-Comté, le Grand Est, les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Toutes ces régions sont touchées. À Paris, par exemple, SOS Médecins a renforcé ses effectifs pour faire face aux nombreux appels. Reportage Pauline Jacquot.
41, c'est le record aujourd'hui.
Enveloppé sous sa couette, Salvatore, 28 ans, grelotte, nausée, maux de tête, courbature, une grippe extrêmement violente.
Bon. Bah écoutez, je suis désolé, mais on va aller faire un petit bilan à l'hôpital. Hein. Vous pouvez pas rester comme ça.
Surtout, ne pas prendre de risques avec le virus, insiste le docteur Antoine Smania. C'est le 8e cas aujourd'hui.
Antoine, terminé.
Il y a une montée en puissance déjà ce week-end. Ça a commencé ce week-end, une montée en puissance. Là, on est vraiment dans la courbe ascendante de l'épidémie de la grippe. Le prochain patient, le standard a noté douleur abdominale, nausée, courbature. Le mot courbature... Depuis quelques jours, depuis une semaine, nous oriente quand même fortement vers la grippe.
Grippe intestinale pour Alan et sa fille de 9 ans. Ce jeune papa dit avoir complètement oublié de se faire vacciner.
Je me suis occupé de ma fille et après, là ce matin, j'étais un peu... J'étais pas traque, je commençais à... J'avais de la fièvre aussi. Et mal à la tête, courbature. Et ma fille, c'était hier.
Les cas vont encore se multiplier en Île-de-France. Selon le médecin Antoine Smania, le pic devrait être atteint d'ici 2 semaines.
Le reportage signé Pauline Jacquot pour Europe 1.
Les premiers flocons commencent à toucher le sol et la neige arrive. On en parle depuis ce matin dans la matinale avec Laurent Cabrol.
Oui, Météo France a placé le nord et le centre du pays en vigilance orange. 24 départements en tout. Pour l'instant, ce n'est pas la tempête, mais on se prépare. Par exemple à Chartres, où vous vous trouvez, Roman Hoquet, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes en ce moment sous les premiers flocons, Roman?
Oui, de la neige mélangée à de la pluie tombe depuis une dizaine de minutes. Alors pour l'instant, pas de blanc au sol. Il faut dire que la ville a anticipé. Depuis plusieurs heures, les saleuses s'occupent des axes principaux, tandis que les agents de la mairie salent les trottoirs à la main. Et pour éviter d'être retardés par la météo, beaucoup de travailleurs ont pris leurs précautions. C'est le cas de Béatrice, qui habite à 20 km de Chartres. Elle est venue en voiture, même si elle redoute la conduite par temps de neige.
La peur de prendre la route, de glisser surtout en voiture. Voilà. Je me suis dit, si jamais il y a un jour je ne peux pas rentrer, j'ai toujours mon matériel dans la voiture pour pouvoir rester sur place. Mes affaires de toilette, mes affaires de change, et puis mon maquillage, etc. Et puis voilà.
Du côté de la gare, pas de perturbation pour le moment, les trains sont à l'heure. Virginie est tout de même partie une demi-heure plus tôt ce matin, car en plus des transports, cette mère de famille devait gérer un autre problème.
Il faut anticiper pour les enfants, pour voir s'ils pourront aller à l'école. C'est une organisation plus compliquée qu'à l'habitude. C'est mon mari qui va gérer la suite maintenant, c'est chacun sa partie de galère. Moi c'est Paris et mon mari c'est l'école. Même si c'est galère pour les parents, je suis très contente, parce que si mon fils voit la neige aujourd'hui, il sera très content.
Alors Virginie appréhende tout de même le trajet du retour ce soir, car comme beaucoup d'habitants de Chartres, elle travaille à Paris, où la neige annoncée devrait probablement perturber les trains.
Merci à vous Roman Hoquet, vous étiez en direct de Chartres pour Europe 1. Alors je me tourne immédiatement vers vous Laurent Cabrol. Avec cette question simple, quelles sont les prévisions pour les prochaines heures?
Les prévisions sont que nous commençons maintenant à être dans l'air froid totalement. La perturbation est entrée dans l'air froid et elle va y rester pendant 3 à 5 heures. Des régions déjà ont été touchées, des villes comme Béthune, le Touquet, Amiens, dans l'Oise, en Seine-Maritime, sont déjà des régions ou des villes où il neige. Pontoise et Parmain, donc en région parisienne, sont concernés. Cela veut dire que la neige, comme prévu, il est 8h03 ou 4, eh bien, la neige arrive à Paris maintenant, arrive sur l'île de France, et elle va y rester pendant 3 à 5 heures, je l'ai dit, amenant 3 à 5 cm d'épaisseur. Ensuite, elle va se promener vers la Champagne, la Touraine, le Loiret, le Cher, l'Indre-et-Loire, Lyon, la Lorraine, le Morvan et l'Auvergne. Vous voyez que de nombreuses régions seront concernées par ce premier passage, car il y en aura un autre la nuit prochaine.
Alors bien sûr, quand il neige comme ça, l'inquiétude, c'est la circulation des véhicules. Sachez que la N118 en région parisienne a été fermée aux poids lourds par précaution. Je vous rappelle que l'année dernière, des centaines d'automobilistes s'étaient retrouvés bloqués sur cet axe. Et les autorités, dans un communiqué, viennent de demander à nos concitoyens de limiter leurs déplacements.
Et si vous voulez envoyer vos photos, vos infos, utilisez le hashtag #1neige comme Anthony, Ulrich, Justine, Jérôme ou encore Marie qui nous dit ça se complique très, très sérieusement en Haute-Normandie. Ça tombe.
Une information de ce matin concernant Carlos Ghosn. Il reste en prison au moins jusqu'au 10 mars. Sa nouvelle demande de libération sous caution a été rejetée par le tribunal de Tokyo.
Europe 1.
À suivre dans le journal, la prime Macron sans impôt ni charge. Vous en souvenez ? C'était l'une des annonces pour répondre à la colère des Français. Mais combien d'entreprises ont joué le jeu, vraiment ? La réponse dans quelques instants dans le journal de David Doucan. A tout de suite.
Il est 8h07, votre matinale info, Nico Saliagas.
C'était l'une des annonces fortes le 10 décembre dernier du président pour répondre à la colère des Gilets jaunes.
Oui, une prime exceptionnelle, sans impôts ni charges, mais au bon vouloir des entreprises. Alors, les patrons ont-ils joué le jeu ? Europe 1 a enquêté, plus d'une centaine d'entreprises nous ont répondu. Et selon nos informations, plus d'un million de salariés vont en bénéficier. Voici tous les détails avec François Geffrier.
Entre 0, 150 euros et 1500, c'est le grand écart d'une entreprise à l'autre. Les plus généreuses sont aussi les plus grandes et les mieux portantes. BNP Paribas, Banque Populaire Caisse d'Épargne, Crédit Mutuel, mais aussi L'Oréal, Free, SFR, Publicis ou Sanofi. Ceux-là ont versé 1000 euros, 1500 même pour Total, soit à tous leurs salariés, soit à ceux qui ont un salaire en dessous de 3600 euros net par mois, la limite fixée par le gouvernement pour que cette prime soit sans impôt ni charge. Dans le secteur de l'habillement, en difficulté, la prime est bien plus faible, 150 euros chez Kiabi, 100 seulement à la Halle, et zéro, pas de prime, chez Pimki. L'année a été compliquée aussi au PMU et dans le secteur du jouet, notamment chez Mattel, qui ne peut offrir cette prime Macron à ses salariés. Les entreprises ont jusqu'à fin mars pour se décider et verser la prime. PSA attend de connaître ses résultats annuels, et tout comme Malakoff Médéric va négocier avec les élus du personnel, les primes vont donc continuer à tomber, tout comme chez Amazon, hier, 500 euros pour les salariés de ces centres de tri et logistique.
Information signée François Geffrier. Alors vous retrouvez la liste complète de la centaine d'entreprises qui ont répondu à Europe 1 au sujet de la prime Macron sur notre site, europe1.fr.
Oui.
Alors, 14 gilets jaunes, mon cher Nico, ont été...
Je dis un oui comme ça, ça arrive.
Mais c'est bien, oui. C'est une approbation. 14 gilets jaunes, donc je vous le disais, ont été interpellés dans la région de Narbonne, suspectés d'avoir participé en décembre à l'incendie d'un péage sur l'autoroute A9. Et selon les informations du service police-justice d'Europe 1, lors des perquisitions, les enquêteurs ont retrouvé des uniformes de gendarmerie. Ah. Et de la société Vinci, volée lors de l'attaque. Les 14 personnes arrêtées vont être présentées à un juge d'instruction.
Le gouvernement entre en guerre contre les marchands de sommeil.
Oui, c'est un arsenal juridique qui a été présenté hier par la garde des Sceaux et par le ministre du Logement. Nicole Belloubet et Julien de Normandie veulent sanctionner financièrement les marchands de sommeil aussi sévèrement que les trafiquants de drogue. La peur du gendarme pourrait bien être efficace parce que, et on ne l'a pas forcément en tête, les marchands de sommeil ne sont pas nécessairement des délinquants chevronnés, mais bien souvent, au contraire, des citoyens intégrés. Écoutez, l'adjoint au maire de Saint-Denis, dans le 93, dans le département de Seine-Saint-Denis, Patrick Vassalot.
On a des gens qui sont par ailleurs des notables. On a des enseignants, on a des avocats, des médecins, donc des gens qui ont accumulé de la rente et dont le seul objectif, c'est que ça rapporte le plus possible en leur faisant le moins d'emmerdement, excusez-moi le terme, possible, et qui donc deviennent marchands de sommeil par appât du gain et par désintérêt total. Et c'est des gens qui n'en ont strictement rien à faire, ni de la ville, ni des gens qui sont là.
Patrick Vassalot, adjoint au maire de Saint-Denis, au micro européen de Victor Dolan.
Mon cher David, vous nous aviez promis, en ouverture du journal, un voyage sur la Lune. Alors
oui,
j'attends.
Et je tiens toujours mes promesses.
Très bien.
Le président d'Ariane Group et l'Agence spatiale européenne ont une idée en tête. Figurez-vous qu'il y a sur la Lune du rigolite. C'est une poussière provenant de la dégradation des roches. Eh bien, on peut la transformer en carburant. Notre satellite naturel pourrait alors devenir la station-service du système solaire. Lord Autriche nous explique tout.
Sur la Lune, ce qui intéresse aujourd'hui les scientifiques, c'est le rigolite. À partir de ce minerai, on peut extraire de l'oxygène et produire de l'eau et de l'hydrogène, des ressources précieuses qui permettraient de fabriquer sur place du carburant et donc de faire de la Lune une station-service de l'espace pour des missions plus lointaines, par exemple vers Mars. Ces ressources, créées à partir du rigolite, permettent d'envisager aussi que des hommes puissent rester un certain temps sur la Lune. C'est une idée portée aujourd'hui notamment par le patron de l'Agence spatiale européenne qui rêve de créer un village lunaire, une structure gonflable habitable. La Lune a aussi l'avantage de n'être qu'à quelques jours seulement de voyage de la Terre. Ce serait l'occasion pour les différentes agences spatiales, l'Europe, les Chinois, les Russes, les Américains, d'y tester sans risque trop important de nouvelles technologies pour préparer ensuite des vols habités vers des destinations plus lointaines.
Laure d'Autriche, la spécialiste espace d'Europe.
On pille tout, la Terre, maintenant on va piller la Lune.
C'est ça, c'est un peu l'idée, vous avez bien compris. Un mot de tennis pour finir, je vous parle d'un très jeune joueur, il a 20 ans, il est grec, il s'appelle Stefanos Tsitsipas et il s'est qualifié pour sa première demi-finale en Grand Chelem, c'est à l'Open d'Australie.
Hier encore, j'avais 20 ans. Merci beaucoup, mon cher David Doucan, pour le journal.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
8h12, coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouette, Nikos.
Angela Merkel et Emmanuel Macron, mon cher Vincent Hervouette, se retrouvent dans 2 heures pour signer un nouveau traité franco-allemand. C'est important ou pas ?
Oui, alors, ils ont rendez-vous à Aix-la-Chapelle, capitale symbole de Charlemagne. En Europe, les symboles pèsent toujours des tonnes. Ce sont les mânes de Konrad Adenauer et de Charles de Gaulle qu'il faut invoquer. On célèbre ce matin l'anniversaire du traité de l'Élysée qu'ils signèrent en 1963 pour établir une coopération entre les deux nations qui venaient de passer un siècle à se haïr. Alors, le traité d'Aix-la-Chapelle a l'ambition d'aller plus loin. On ne parle plus de concertation, mais d'intégration. Il ne s'agit plus de coopérer, mais de s'aligner. De deux, on veut faire un seul. Et comme dans tout mariage, la question est de savoir lequel. En 1963, le traité était signé à l'Élysée, comme son nom l'indique, pas outre-Rhin. L'Allemagne avait reconstitué son outil industriel, mais restait un nain politique, une nation coupée en deux, une impuissance militaire. La France, elle, a porté la bombe, le siège au Conseil de sécurité, une économie en pleine expansion. Les deux pays étaient complémentaires, l'accord était équilibré.
Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ?
Alors, bon, pose la question, c'est un peu y répondre. En 1963, en tout cas, les députés allemands prirent soin d'ajouter un préambule avant de ratifier le traité. Rien ne devait se faire sans Washington. Dès l'origine, il y a donc eu toujours un troisième lascar dans le placard du couple franco-allemand. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne, les présidents du Conseil européen, de la Commission, du Conseil de l'Union européenne, messieurs Tusk, Juncker et Ioannis, les vrais choux de Bruxelles, sont conviés à la fête ce matin, mais rien ne dit que les pays latins, les pays scandinaves, les pays de l'Est bénissent cette union entre les deux poids lourds du continent. On peut même penser le contraire. Le mieux est l'ennemi du bien. Et au lieu de servir d'exemple, le traité d'Aix-la-Chapelle risque d'aggraver les division de l'Europe.
Mais outre la symbolique et le symbole, ça peut déboucher sur quoi ce traité ?
Alors, le traité de l'Élysée avait donné l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, rappelez-vous, pour que les nouvelles générations apprennent la langue de l'autre. Résultat mitigé, tout le monde parle anglais, notamment Emmanuel Macron et Angela Merkel. Avec le traité d'Aix-la-Chapelle, la grande ambition sera d'obtenir pour l'Allemagne un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, il n'y en a que 5 pour les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Il y a 2 solutions. Soit réformer le Conseil de sécurité, ça fait 20 ans qu'on le cherche, cette réforme, qu'on la cherche. L'Afrique et le monde arabe, sans oublier le Japon, le Brésil, l'Inde, réclament leur place, en vain. Soit que la France se serre un peu, qu'elle partage son fauteuil. Il y a toujours eu des perfides, pour, notamment en Allemagne, pour trouver qu'elle occupait abusivement ce fauteuil, qu'elle n'avait pas toute sa place à la table des vainqueurs, à la table des grands. De Gaulle se retournera vraiment dans sa tombe ce jour-là.
On suivra ça dans quelques heures sur Europe 1. La rencontre pour le traité franco-allemand de Merkel et Macron. Merci.
Europe 1. Il est 8h15.
Vous recevez qui dans moins d'une minute, Audrey Crespo-Mara ?
Eh bien écoutez, nouveau traité franco-allemand, nouvelle proposition de Brexit. Ces derniers jours, on refait le match à l'international. Quelles répercussions sur la France ? Nathalie Loiseau, ministre aux Affaires européennes, sera mon invitée. Elle est en route, tenez, pour Villacoublay. Elle part en Allemagne avec Emmanuel Macron.
A tout de suite.
Il est 8h17, Nico Saliagas.
La ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en charge des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, est votre invitée, Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Nathalie Loiseau.
Bonjour.
Vous êtes en route pour Villacoublay pour prendre l'avion avec le président qui va signer un nouveau traité d'entente franco-allemand et à Aix-la-Chapelle. Marine Le Pen affirme qu'en signant ce traité, Emmanuel Macron est en train de vendre notre pays et d'effondrer notre souveraineté. Quand votre principale opposante vous accuse de vendre la France à l'Allemagne, vous lui répondez quoi ?
Bah, qu'elle se ridiculise. D'ailleurs, la presse allemande n'a pas manqué de se moquer d'elle. Marine Le Pen est normalement députée française. Les informations sur le traité d'Aix-la-Chapelle, elles sont connues de tous les députés. Je dis aussi à Marine Le Pen de parler un peu avec les Alsaciens. Parce que c'est ce que nous avons fait depuis des mois pour savoir comment est-ce qu'on pouvait améliorer leur situation de frontaliers, comment pour faire en sorte qu'ils puissent circuler plus facilement, échanger plus facilement, faire plus de commerce, créer plus d'emplois. J'ai l'impression qu'elle ne doit pas aller souvent sur le terrain pour dire des énormités pareilles.
En octobre, le gouvernement a fait voter une loi contre les fake news. Est-ce que les propos de Marine Le Pen pourraient tomber sous le coup de cette loi ?
Marine Le Pen et quelques autres, puisque ça a commencé par un député européen français, je le déplore parce que c'est une drôle d'image de la France que ça donne, Bernard Monod, qui lui aussi a accumulé des informations sur le traité d'Aix-la-Chapelle, avec une sorte de mépris du peuple. Quand on est populiste aujourd'hui, on pense qu'on peut dire raconter n'importe quoi au peuple et que le peuple croira. Je pense qu'à part quelques complotistes pathologiques, personne ne suivra ni Marine Le Pen, ni Nicolas Dupont-Aignan, ni Bernard Monod dans leurs excès.
Nathalie Loiseau, ce qui inquiète Marine Le Pen, c'est, je cite, que Macron envisage à terme de partager notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU avec l'Allemagne. Est-ce que c'est envisageable ?
Là encore, ça n'est ni envisageable ni envisagé. Notre position, c'est que nous avons un siège de membre permanent du Conseil de sécurité, que nous sommes heureux quand d'autres États européens viennent au Conseil de sécurité, comme cette année par exemple l'Allemagne. Nous nous présiderons en mars et les Allemands en avril, et que c'est l'union qui fait la force.
Alors,
plus nous sommes nombreux, plus cela permet à l'Europe de se faire entendre.
Pourtant, en novembre dernier, le numéro 2 du gouvernement allemand a évoqué cette possibilité. Dans un discours à Berlin, le vice-chancelier a affirmé qu'à moyen terme, le siège de la France au Conseil de sécurité pourrait être transformé en siège de l'Union européenne.
Mais là encore, il va à l'encontre des intérêts de son pays et de la position de sa chancelière. Puisque
c'est le vice-chancelier, quand même.
Ouais. Oui, mais vous savez qu'en Allemagne, il y a une coalition qui, parfois, est un peu compliquée. Ce que souhaite l'Allemagne, c'est d'avoir son propre siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Et d'ailleurs, nous la soutenons.
Et je précise
nous
son propos. Je précise son propos, pardon, Nathalie Loiseau. L'argument du vice-chancelier allemand, c'est que si on prend l'Europe au sérieux, l'Union européenne devrait parler d'une seule voix au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, vous ne prenez pas l'Europe au sérieux.
Nous coordonnons avec tous nos partenaires de l'Union européenne, l'Allemagne, mais pas seulement elle. À chaque fois que nous nous exprimons au Conseil de sécurité, nous faisons d'abord un effort de coordination avec nos partenaires. Bien sûr qu'il faut être capable de parler d'une seule voix, et bien sûr qu'aujourd'hui l'Europe est confrontée à une situation géopolitique et à des menaces qui sont communes. Mais plus nous serons nombreux pour faire entendre notre voix au Conseil de sécurité, mieux ça vaudra.
Dans tout cas, on n'échange pas notre siège.
Naturellement, non.
Marine Le Pen accuse aussi le traité d'Aix-la-Chapelle de mettre l'Alsace et la Lorraine sous tutelle allemande. Est-ce que le traité prévoit un partage de la souveraineté sur les zones frontalières ?
Pas un quart de seconde. Là encore, Marine Le Pen ferait mieux de sortir de son bureau et d'aller voir les Français et de les entendre. Aujourd'hui, quand vous êtes Alsacien et que vous voulez, par exemple, envoyer une chorale ou une équipe sportive de l'autre côté de la frontière, c'est compliqué parce que les réglementations ne sont pas les mêmes. Ce à quoi nous nous engageons, c'est de simplifier tout ça, de faire en sorte que un fleuriste de Strasbourg puisse livrer à Kehl sans difficulté, de faire en sorte qu'il puisse y avoir une crèche franco-allemande où les enfants puissent être gardés indifféremment par des auxiliaires français et allemands. Tous ces petits irritants du quotidien qui existaient jusqu'à maintenant, c'est la première fois qu'un traité bilatéral accepte de les regarder en face, de simplifier la vie des gens. Et moi, je suis au contraire très contente que, au-delà du symbolique qui consiste à se réunir à Aix-la-Chapelle, on traduise l'Europe dans le quotidien des Français et des Allemands.
Donc, qu'on ne vend pas l'Alsace et la Lorraine.
Pas un quart de seconde non plus.
Nathalie Loiseau, Theresa May devait présenter un plan B au Parlement. Finalement, il semblerait que son plan B consiste à maintenir le plan A qui a été rejeté par les députés. Un Brexit sans accord est devenu inévitable ?
Il n'est pas inévitable, mais il est plus probable aujourd'hui qu'il y a quelques semaines. Nous continuons à penser que l'accord de retrait, tel qu'il a été négocié, tel qu'il a été accepté par Theresa May, est la meilleure manière de se séparer dans l'ordre et avec raison. Mais si les Britanniques ne peuvent pas soutenir cet accord de retrait, si Theresa May n'arrive pas à ses fins, alors inévitablement, il y aurait un Brexit sans accord. C'est pour ça que nous nous y sommes préparés. Il y a une loi qui a été passée au Parlement la semaine dernière. Mmh. Il y a des ordonnances qui vont être examinées en Conseil des ministres à partir de demain pour faire en sorte que pour les Français, les entreprises françaises et les Britanniques qui vivent en France, il n'y ait pas de chaos au 30 mars.
Theresa May est retournée à Bruxelles pour obtenir une petite concession supplémentaire qui lui permettrait de faire accepter un accord par les députés. Êtes-vous d'avis de lui accorder ?
Alors elle n'est pas retournée à Bruxelles, pour le moment elle discute avec la classe politique britannique. Ce qui est dans l'accord de retrait, on ne va pas le rouvrir, c'est 17 mois de négociations et sur le sujet qui la préoccupe le plus, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait avec l'île d'Irlande, nous avons accepté ce qui était sa proposition.
Donc vous n'irez pas plus loin.
L'accord de retrait, on ne le rouvrira pas. Si elle veut une relation future avec l'Union européenne, différente de celle sur laquelle nous nous sommes mis d'accord. Si par exemple elle nous dit « je veux une relation plus étroite parce que c'est ce qu'une majorité de parlementaires nous demande », à ce moment-là nous serons prêts à l'écouter, bien sûr.
Le Brexit est prévu le 29 mars, ne faudrait-il pas reporter la date pour laisser une dernière chance aux négociations ?
À ce stade, Theresa May ne l'a pas demandé.
Et si elle le demande ?
Elle a très clairement dit hier aux membres du Parlement britannique une réalité. Pour le demander, il faut qu'il y ait une bonne raison. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un élément nouveau et que cet élément nouveau soit soutenu par une majorité de députés britanniques et puis reporté pour combien de temps ? Donc pourquoi
faire ? Donc il n'y a pas d'élément nouveau et donc il n'y aura pas de report ?
On verra, mais elle va en discuter toute cette semaine et elle doit débattre au Parlement britannique le 29, lundi prochain. Nous sommes à son écoute, mais nous lui disons aussi que le temps presse. Nous lui disons dépêchez-vous.
Dépêchez-vous. Nathalie Loiseau, au Royaume-Uni, après un premier référendum en faveur du Brexit, une partie de l'opinion et des élus réclament un nouveau référendum pour inverser la décision. Ça vous rend prudente sur l'usage du référendum que réclament les Gilets jaunes ?
Écoutez, c'est une décision britannique de savoir s'ils doivent avoir un nouveau référendum ou non. Ça n'est pas à nous de leur dire ce qu'ils doivent faire.
Mais sur l'usage du référendum en France, par conséquent, est-ce que ça vous rend plus prudente sur cet usage ?
Ce que je constate quand on tire les leçons du référendum de 2016, c'est que le résultat est le fruit de beaucoup de désinformation. Vous vous souvenez de ce qui avait été dit par les Brexiteurs pendant la campagne, que des millions de Turcs allaient envahir le Royaume-Uni, ce qui était évidemment une invention, que des milliards allaient revenir vers le système de santé britannique parce que le Royaume-Uni quittait l'Union européenne. C'est là-dessus que beaucoup de gens se sont déterminés. Donc faire un référendum, il faut toujours veiller à lutter contre la désinformation. Et puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une majorité contre l'Union européenne, mais qui ne s'est pas solidifiée dans une majorité pour quelque chose.
Et votre opinion sur l'usage d'un référendum éventuellement en France ?
Écoutez, c'est prévu par la Constitution, ça peut même être étendu si nécessaire, mais c'est ce que j'étais en train de vous dire. Les majorités contre, comme on en a connu en 2005 par exemple, ça ne fait pas forcément une majorité constructive pour construire autre chose. Donc il faut se méfier quand à une question compliquée, on demande aux gens de répondre par oui ou par non.
Merci Nathalie Loiseau.
Merci.
C'était l'interview politique avec Audrey Crespo-Mara, tous les jours à 8h15 sur Europe 1.
Europe 1.
Et il est 8h26, dans un instant, la météo de Laurent Cabrol.
On vous dira tout sur la neige, le point complet sur l'impact et la circulation ce matin. Il y aura la revue de presse aussi. Et puis, on reparlera des affaires des bébés sans bras. Il y a du nouveau, on vous dit tout. A tout de suite sur Europe 1.
À suivre dans la prochaine demi-heure, Nikos.
David Abiker pour la revue de presse. Vous parlez de quoi ce matin, David ?
Je vais vous parler des étoiles du guide Michelin, de Parcoursup, de méritocratie et même du parcours d'Alexandre Benalla.
Moi, je vais vous parler de Nicolas Canteloup à 8h40 et sa revue de presque. Mais la météo aussi, Céline, parce qu'il commence à neiger.
Avec Laurent Cabrol.
Ah, il neige en Normandie, il neige dans le nord. Et comme beaucoup de chutes de neige, Dunkerque, il y en a aussi à Rouen, enfin bref, le Touquet.
Dans les Yvelines, nous dit aussi une tweeteuse avec... Un petit coup Véronique. Sur le pare-brise, oui, Véronique qui écrit Europe 1 sur le pare-brise de sa voiture.
Ah, c'est très sympa.
Et bonjour,
oui,
bah,
la neige, ça y est, maintenant, bon, elle est arrivée. Alors, ce que tu veux bien dire à nos amis, c'est que elle est d'intensité très variable. On peut avoir des endroits, des secteurs où c'est un simple saupoudrage, et puis un autre endroit où vous avez 5 cm. C'est exactement comme quand vous avez une zone de pluie. Et puis, comme les températures ne sont pas homogènes, vous avez du moins 1, moins 2, moins 3, plus 1, plus 2. Donc, vous voyez bien qu'on est à la limite du 0 degré, et donc l'intensité neigeuse n'est pas forcément la même. Bon,
d'accord.
Cela dit, il va neiger pendant 3 à 5 heures. Quand il commence à neiger, ça dure 3 à 5 heures. Il y a entre 3 et 5 cm. Si vous êtes un petit peu en montagne, ou si vous êtes sur un mont, comme dans le Morvan, cet après-midi, vous aurez 15 cm, parce que le Morvan est à 800 mètres d'altitude, hein, quand même. Donc, vous avez l'occasion de goûter à la neige sans trop avoir d'inconvénients, d'autant que les salages ont été apparemment effectués avec beaucoup d'attention. Deuxième épisode la nuit prochaine, avec encore, sous forme de giboulée, encore 3 à 5 cm. Le littoral de la Manche, je le dis pour ceux qui nous écoutent, ce sont également des giboulées, mais ça ne va pas durer. Sur la Loire-Atlantique, même le littoral atlantique dans son ensemble, des éclaircies jusqu'à Bordeaux. Dans le sud-ouest, nous aurons de la pluie. Et puis à l'écart, provisoirement, car il neigera demain, en Alsace, Franche-Comté, Rhône-Alpes et sur le bassin méditerranéen, où nous aurons un petit peu de soleil. Voilà.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Merci
nous
beaucoup, Cabron.
Le mardi 22 janvier, toute l'actualité à 8h30 avec vous, Nico Saliagas.
Le nord et le centre en alerte orange, neige, verglas, 24 départements au total. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, demande aux automobilistes de région parisienne de limiter leurs déplacements et de privilégier les transports en commun. Stéphane prenait le train ce matin. Il était à la gare de Chartres, direction Paris, pour aller travailler. Il appréhende le retour de ce soir.
C'est la galère, effectivement. Les bus, ça circule pas, ça déneige pas assez, les trottoirs sont gelés. Bah voilà, c'est la cata, on va dire. Il y a plus rien qui circule. Prends son mal en patience, on va prendre l'ordinateur, comme ça, s'il y a un peu plus de temps de trajet, ben, on peut être occupé un petit peu dans le train. Maintenant, voilà, on va prendre à manger et à boire, on sait jamais. Tout peut arriver maintenant, là, sur Paris.
Témoignage recueilli à Chartres par Romain Noquet. Le coup d'envoi des inscriptions sur Parcoursup. Aujourd'hui, les élèves de terminale peuvent commencer à formuler leurs vœux pour l'enseignement supérieur. Ils ont jusqu'au 14 mars. Info Europe 1, 14 personnes en garde à vue depuis hier pour l'incendie du péage de Narbonne sur l'A9. En marge d'une manifestation des Gilets jaunes, début décembre, un groupe de 200 personnes avait détruit la barrière. De nouveaux cas de bébés sans bras dans les Bouches-du-Rhône. Trois fillettes nées avec la même malformation en 2016, dans le même secteur, l'étang de Berre. Écoutez l'une des mamans, Elisabeth.
Là, on s'est dit, on se pose des questions, puisqu'on a toutes pris des précautions lors de la grossesse. Peut-être qu'il y a autre chose sur la pollution. Voilà, il y a beaucoup de questions à ce niveau-là. Nous, c'est sûr qu'on a tout ce qui est industriel dans le pourtour de l'étang. Oui, on a des doutes quand même.
Propos recueillis par Stéphane Frangy. Angela Merkel et Emmanuel Macron se retrouvent à Aix-la-Chapelle ce matin. Ils signent un nouveau traité pour renforcer la relation franco-allemande à 4 mois des élections européennes. Carlos Ghosn ne sortira pas de prison. Le tribunal de Tokyo rejette sa nouvelle demande de libération sous caution. Et puis la disparition à 91 ans de Marcel Azola. Légende de l'accordéon, il avait accompagné les plus grands, Barbara, Piaf, Brel. Il s'était aussi glissé dans le monde du jazz, comme lors de cet hommage à Django Reinhardt. L'accordéon de Marcel Azola. Chapeau l'artiste, il vient de nous quitter, il avait 91 ans.
Et tout de suite, Nico Saliagas, c'est l'heure de la revue de presse de David Abiker.
Un autre artiste est avec nous.
Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous.
Bonjour David Abiker.
À la une ce matin, des flocons et des étoiles, ce qui revient presque au même, car si vous regardez un flocon au microscope, ben ça ressemble à une étoile. Et c'est ce qui me surprend moi ce matin, un quotidien régional sur deux vous parle des nouveaux chefs étoilés. Ah. La Dépêche du Midi publie la carte des étoilés du Grand Sud. Le Midi Libre célèbre les 6 nouveaux étoilés de la région, en une du Dauphiné, Marc Vera qui lui en perd une d'étoiles. Stupeur en cuisine, titre Le Progrès, et je ne vous parle pas des petits nouveaux, ces jeunes chefs qui posent fièrement en une de la montagne ou du bien public. Alors pourquoi tant d'étoiles à la une dans un pays où les quotidiens nationaux vous parlent d'inégalités, mettent en cause les hiérarchies et se demandent si Macron n'est pas une étoile filante ? Peut-être parce que les étoiles nous racontent une histoire assez simple en fait, une histoire de travail, de talent, de territoire et de récompense de l'effort. Les étoiles du guide Michelin, c'est une vieille histoire de méritocratie à laquelle les Français croient encore. C'est peut-être une des dernières.
Et puisque vous parlez de méritocratie, mon cher David Abicard, c'est aujourd'hui que les lycéens vont faire leur choix d'orientation sur Parcoursup.
Parcoursup, c'est un peu, allez, j'ose la comparaison, le cahier de doléances du lycéen. De même que les Français débattent et expriment des vœux pour leur avenir, le lycéen est invité à se projeter lui aussi dans le futur. Il a jusqu'au 14 mars, vous le disiez à l'instant, pour les exprimer. Voilà donc les 5 conseils du Parisien aujourd'hui en France pour réussir son orientation sur Parcoursup. Premier conseil, vous prenez votre temps, vous vous renseignez. Vous avez presque 2 mois. Deuxième conseil, si vous n'avez pas un excellent niveau, évitez les filières sélectives et puis faites des choix dont vous êtes quasi sûr pour ne pas être démoralisé par une avalanche de non. Troisième conseil, ne misez pas tout sur une seule voie. Quatrième conseil, peaufinez votre lettre de motivation. Et puis dernier conseil, candidatez en dehors de votre académie, mais avec modération, vous dit le Parisien aujourd'hui en France, car Parcoursup, qui encourage la mobilité sur le papier, y parvient mal dans les faits. C'est d'ailleurs une des critiques formulées par le défenseur des droits, Jacques Toubon, saisi l'an dernier de plusieurs réclamations. L'institution critique Parcoursup sur 3 insuffisances, rapporte Le Monde et Libération. La transparence du système, la mixité et la mobilité géographique. En clair, Parcoursup doit être un outil de sélection, mais il doit aussi être lisible et aussi ne pas creuser les inégalités. C'est pas simple. On lira aussi le sondage réalisé par le Figaro étudiant auprès de 680 lycéens. Certes, ils sont 57% à se dire stressés par Parcoursup, mais ils sont aussi 57% à être optimistes sur l'obtention de leur premier choix. Comme quoi, on a raison de s'inquiéter pour nos enfants, comme quoi on a raison aussi de ne pas trop s'inquiéter.
Il a passé lui aussi un grand haut hier, le grand oral devant la commission d'enquête du Sénat, c'est Alexandre Benalla.
Benalla est ce matin partout dans la presse, mais surtout dans Le Monde, qui consacre un long papier au parcours, atypique encore des parcours, atypique des hommes de l'ombre de l'Élysée, ces jeunes gens proches de Benalla qui ont rejoint l'aventure macronienne après des itinéraires variés, des spécialistes de sécurité privée, de défense ou de diplomatie, qui ont tous en commun une certaine jeunesse, le goût du secret, et surtout qui ont le mérite aux yeux du président de ne pas sortir du sérail, du moule. Des gens qui lui plaisaient parce qu'ils pensaient out of the box, de façon non conformiste, différemment. C'est avec eux, suggère Le Monde, qu'Alexandre Benalla a conservé des liens jusqu'à Noël. Alors hier, quand la commission d'enquête du Sénat a demandé à l'ancien garde du corps qui était la personne qui lui avait remis ses clés, son chéquier et les 2 passeports utilisés illégalement, il a refusé de répondre. Et Le Monde de s'interroger, est-ce un de ses anciens camarades de l'Élysée qui lui a remis ce sac? On ne sait pas. Ce matin, vous avez 2 façons de relire l'histoire d'Alexandre Benalla en lisant Le Monde et la presse. Vous la comprenez comme une affaire d'État, mais vous pouvez aussi la regarder comme on lit un CV, comme un parcours méritocratique selon son avocat. Celui d'un jeune homme issu d'un milieu modeste, qui a eu très tôt la vocation, qui a très tôt voulu faire un stage dans la sécurité des personnalités, qui a très tôt développé son réseau en conséquence et qui très tôt a choisi son employeur autant que son employeur l'a choisi. Alors je vais vous surprendre, Nikos, mais si Benalla n'était pas devenu le nom d'une affaire d'État, son parcours pourrait être étudié comme celui d'un jeune homme qui très tôt a su ce qu'il voulait faire. Et ça, c'est une des clés pour réussir son orientation et passer au travers de Parcoursup.
Merci, c'était la revue de presse avec David Abicaire.
Europe 1.
Mais il est 8h37.
Dans un instant, Nicolas Cantelot arrive avec son cortège de voix, de personnages, de blagues. Il y a Julie aussi à côté de lui. Je sais pas pourquoi, mais ce matin, je crains le pire. À tout de suite.
Il est 8h40.
La revue de presse, Nicolas Cantelot, Julie, c'est parti.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Cantelot. Et on commence avec le rappel du titre principal de l'actualité. Nikos, c'est à vous.
Oui, merci chère Julie. L'Actu Surround, c'est aujourd'hui Angela Merkel et Emmanuel Macron qui ont rendez-vous à Aix-la-Chapelle pour signer un traité qui les engage tous les deux sur la coopération franco-allemande. Oui, je sais, chers auditeurs, vous vous dites ce matin, cette journée va être horrible avec ce froid, cette neige. Mais vous voyez, ça pourrait être pire. Vous pourriez signer un papier qui vous oblige à jurer fidélité à Angela Merkel ce matin.
Ah oui.
Tiens, à propos de sommet, Donald Trump ne sera pas à Davos. Vous l'avez dit, Nicolas Barré. Et tiens, j'aimerais bien qu'on appelle, tiens. J'aimerais bien qu'on appelle, qu'on essaie de l'appeler. Trouvez-moi son numéro à Donald Trump. Ben quoi, j'ai bien eu Marlène Schiappa tout
à l'heure. Bah oui, on a entendu ça. Pourquoi pas. Mais ça,
tiens, d'ailleurs, vous avez vu mon interview avec le petit-fils de Mandela. On a beaucoup parlé de son père. Mais j'aimerais bien qu'on appelle Nelson Mandela.
Mandela. Trouvez-moi son number en régie à Nelson Mandela. On essaiera de l'appeler avant la fin de cette
édition. Dans
l'autre
monde.
Voilà, en attendant, Seigneur Météo Cabrol, un point neige, circulation s'il vous plaît, cher Laurent.
Oui, alors écoutez, il ne fait pas chaud, hein, vous avez tous compris. 24 départements ce matin en vigilance orange, mon cher Nikos. Vigilance orange à la neige et au verglas. Alors attention en France, hein, la neige, ça ne veut pas dire se rouler dedans, faire des boules de neige. Non, ça veut dire plus de bus, plus de voitures, plus de trains, des gens qui ne peuvent plus aller au boulot, bref, un pays bloqué. Vous l'avez compris, la neige a fait en une nuit ce que les gilets jaunes ont rêvé de faire en 10 semaines.
Bien vu. Merci, Laurent Cabrol. On en a parlé ce matin, Marlène Schiappa et Cyril Hanouna vont donc animer une émission vendredi prochain sur C8 sur le grand débat national. Bonjour Arthur, vous voulez réagir, hein ? Salut Arthur.
Ouais, salut Julie, bonjour à tous dans ce studio. Mmh. Bonjour Nikos, bonjour salut, les enfants de la radio. Ouais, c'est une super idée, le salaud, le Cyril, il va faire un carton d'audience. Mais moi, je suis en face, je ne vais pas me laisser faire. Du coup, je vais faire une émission spéciale qui va s'appeler « Vendredi, tous les débats sont permis ».
Ah bon ? Et ça va consister en quoi, Arthur ?
Alors moi, Julie, je vais mettre Édouard Philippe dans le décor penché, avec Jarry et Florent Père, déguisés en gilets jaunes. Et ils devront éviter de tomber dans la précarité. On va se poiler. Puis en même temps, on va s'instruire. Voilà, bon. Je vais demander à Mesmer aussi d'hypnotiser des gilets jaunes et après on va voir s'il croit aux promesses du gouvernement, tu vois. En tout cas, il m'a épaté ce matin, Jean-Michel Apathy. Ah, il avait une patate et j'étais... Oui, j'ai pris tout le monde à contre-pied. Je suis... Mettez-vous ça dans la tête. Je suis totalement imprévisible. On attend que je dise Cyril Hanouna, c'est de la pipe. Et je dis Hanouna, non, c'est Alain Duhamel et François Imbri de Virgo Réuni. Touche pas mon poste aujourd'hui, c'est l'heure de vérité de version 2019. Moi, personnellement, je vous le dis, j'en ai marre du Macron show qui dure 7h, 14h devant les maires. Je dis, vive Cyril Hanouna, vive Jean-Michel Maire, vive Nabila. D'ailleurs, ça me rappelle Mao Tse-Tung. Il disait, vive les fleurs.
Oh putain, Jean-Michel Apathy est défoncé. Il a fumé un truc où on lui a mis de la drogue dans son café. Bon, attendez, bougez pas les gars, je reprends les rênes. Julie, passez-moi la mise de Marlène Schiappa au téléphone.
On l'a.
Je gère grave ce matin, je suis une sorte de chef d'orchestre, je suis le Karajan de la matinale. Arrête. Bonjour Marlène Schiappa, alors comme ça on intègre l'équipe de Cyril Hanouna, ça buzz beaucoup sur Twitter.
N'importe quoi, ouais. Je ne suis pas, monsieur Nikos Agas, je ne suis pas animatrice ou chroniqueuse, je suis ministre institutrice et je dois faire œuvre de pédagogie. Je viendrai donc avec mon paperboard, mes feutres, ma trousse et je tenterai d'expliquer les choses. Et si j'arrive à expliquer la politique du gouvernement à Mathieu Delormeau et à Zibert Morini-Bosque, ça veut dire qu'on est sauvés.
Merci Marlène Schiappa, merci beaucoup. Dès qu'on a Nelson Mandela en régie, on fait signe.
On vous fera signe, Nikos, oui, pas de problème. On va parler maintenant de Marine Le Pen qui a présenté son projet pour l'Europe dans le Vaucluse. Bonjour Madame Le Pen.
Oui, bonjour madame. Bonjour Smala. C'est un petit peu le bazar chez vous ce matin, je constate. Heureusement, monsieur Aligas tente mettre un peu d'ordre.
Merci madame.
Alors, votre grand truc, c'était que la France sorte de l'Europe, mais devant le fiasco du Brexit en Angleterre, vous ne parlez plus dans vos discours de Frexit.
C'est joli ce... C'est quoi ce petit haut que vous portez là ? C'est quoi ? C'est du étam ? C'est le temps des cerises ? Sandro, c'est quoi ? C'est coucaille peut-être ?
Non, vous n'allez pas esquiver la question cette fois. Hein. On ne comprend plus votre position sur l'Europe. Vous avez proposé de passer tranquillement de l'Union européenne à une alliance européenne.
Ah, je vous l'avais dit. À une alliance. C'est très simple. Tous les pays européens pourraient se retrouver autour tout à fait d'une alliance dans un amphithéâtre à Bruxelles, par exemple, afin de trouver des terrains d'entente communs.
Bah, c'est l'Union européenne, ça ?
Non, ça n'a rien à voir. Bah, c'est l'alliance. Madame, non, il poil poisson. Rien à voir, c'est l'alliance européenne. Car pourquoi faire cette alliance ? L'Union européenne, vous savez, est le pire fléau que la France ait connu l'immigration. Voilà, l'immigration. C'est toujours le mot qui me sauve. Du coup, il faut fuir au plus tôt l'Europe, mais en même temps, nous avons besoin d'une Europe forte. Donc, il faut fuir tout en restant ensemble. Voilà. Je dirais qu'il faut fuir ensemble dans la même direction.
Bah, écoutez, moi, j'ai rien compris.
Moi non plus.
on est rassurés. Merci, Marine Le Pen. Hier, la deuxième audition d'Alexandre Benalla au Sénat n'a pas donné grand-chose. On va essayer de le faire parler avec le champion des questions, Jean-Pierre Foucault. Bonjour Jean-Pierre.
Eh oui, bonsoir, Céline. Bonsoir à tous. Bonjour David.
Bonjour.
Bonjour. Laurent, Céline, Nikos, Céline, Wendy. Bien sûr,
bonjour. Alors Jean-Pierre, les sénateurs ont posé des questions à Alexandre Benalla, qui a botté en touche. Hein. Il avait habilement menti par omission lors de la première session. Et puis hier, bof, ça n'a rien donné.
Oui, merci, hein. Céline. En tout cas, l'occasion pour moi de présenter qui veut nous prendre pour des cons. Alex Benalla en invité. Attention, attention. J'attends la fin du jingle. Voilà, l'ambiance est posée. Alexandre Benalla, bonjour. Voici la première question. Pour prendre un avion, je me munis d'un passeport. Réponse A. De 4 passeports pour emmerder les douaniers parce que ça m'amuse. Réponse B. De 27 passeports parce que je suis le pote de Macron et que je fais ce que je veux. Réponse C.
J'ai envie de dire 27 passeports, monsieur Foucault, parce que je suis le pote de Macron et que je fais ce que je veux. Voilà.
C'est donc votre dernier mot, Alexandre.
Vous me faites douter. Je vais prendre l'appel à un ami.
Allez, banco, on appelle votre ami, ça sonne.
Qui ça va être?
Il disait Emmanuel Macron, j'écoute.
J'écoute. Oui, bonjour monsieur le président, c'est Alexandre Benalla. Je suis monsieur Jean-Pierre Foucault. Il avait une question sur mes passeports, donc je voulais savoir
non,
si...
Non, mais écoute, tu arrêtes de m'emmerder, je ne suis plus ton ami.
Oula.
C'est dommage, c'est une première dans notre jeu. Votre ami n'est plus votre ami. Bien, du coup, c'est perdu, cher Alexandre. Vous allez désormais jouer à qui veut gagner des emmerdes.
Allez, on a appris hier qu'Emmanuel Macron devait se rendre en Algérie en décembre dernier, mais il aurait annulé sa visite à cause des gilets jaunes. On est en ligne, et c'est un honneur, avec le président algérien. Abdelaziz Bouteflika, bonjour, monsieur le président.
Madame Gelé,
monsieur le président.
Madame Gelé.
Monsieur le président, Emmanuel Macron n'a pas pu venir en décembre alors, hein?
Madame Gelé.
Monsieur Bouteflika, quel est votre regard sur la crise des gilets jaunes? Est-ce que l'Algérie craint des mouvements sociaux comparables? Monsieur le Président? Monsieur le Président? Ouh là là, attendez. Quelqu'un peut faire quelque chose là
Oui, bonjour madame, je suis Kevin Spanghero des établissements Spanghero.
Oh non, pas lui, non.
Écoutez, non. Si vous faites rien de monsieur Bouteflika, moi si je peux rendre mon service, j'ai une recette à base de sauce tomate, d'ail de fines herbes, pour faire éventuellement des lasagnes à la boubou. Bien sûr, attention, on est quand même une entreprise sérieuse, en totale transparence, on mettra les ingrédients sur étiquette, recette à base de boubou. Hein. Les Algériens peuvent préférer comme ça d'ailleurs. Hein. Moi je pense qu'ils peuvent le préférer.
Allez, arrêtez, Kevin.
Kevin Spanghero, l'enfant terrible de la matinale, la revue de presse avec Nicolas Canteloup et Julie. Terrible, le tour de la question dès 9h ce matin avec vous, Wendy Bouchard.
Oui, bonjour à tous. Et si je vous disais que je reviens sur le procès de la viande de cheval, retrouvée dans ces lasagnes,
labellisées
100% pur bœuf, sans canteloup, mais c'est inspirant en effet. 7 ans après, qu'est-ce qui a changé pour les consommateurs, pour les filières d'abattage? Vous nous dites à 83% sur notre page Facebook que vous ne faites pas confiance, vous n'êtes plus confiance en ce que vous mangez. Perry Goligas est avec nous, Christophe Marie de la Fondation Bardot et l'association Foodwatch pour nous éclairer sur le sujet. Et puis on vous attend également pour parler des 60 ans d'Astérix, un album en préparation. C'est la BD la plus lue au monde et le héros français le plus connu aussi dans le monde.
C'est ce que disait ma grand-mère à propos de la table. Je ne mange que ce que je reconnais.
Ouais.
Si tu ne sais pas ce que c'est, tu ne manges pas. Merci Wendy Bouchard, à tout à l'heure. Dès 9h, à suivre la météo avec Laurent Cabrol. On suit l'arrivée de la neige dans le nord notamment et puis l'essentiel de la matinale juste avant 9h. On sera ensemble sur Europe 1. Céline Dacosta.
Il est 8h51.
Europe 1.
Il est 8h54, à suivre l'essentiel de la matinale avec vous, Nico Saliagas, mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabrol.
La météo, la neige, c'est la part belle aujourd'hui.
Oui, c'est des chutes neigeuses qui sont vraiment selon les secteurs parfois conséquentes, amenant 5-7 cm, et dans d'autres endroits autour de 1 ou 2 cm, un simple saupoudrage. C'est très variable, mais la perturbation elle est large d'à peu près 200 km, donc elle va passer en 3 ou 4 heures ou 5 heures, et les chutes neigeuses vont s'établir autour de 3 à 5 cm en moyenne. Pour l'instant, donc pratiquement une bonne partie du nord est concernée, dans des neiges à Béthune, au Touquet, dans Amiens, nous en avons dans l'Oise, en Seine-Maritime, dans le Loiret aussi, la Somme, le Val d'Oise. La région parisienne commence à être affectée avec les Yvelines et le Val d'Oise en tout premier lieu. Et ensuite, eh bien, tout ceci va pénétrer dans la capitale, en espérant que ce ne sera pas trop méchant. En ce qui concerne la suite, eh bien, des régions comme la Champagne, la Touraine, le Loiret, le Cher, l'Indre-et-Loire, Lyon, la Lorraine, le Morvan, l'Auvergne seront touchés à leur tour, soit dans la matinée, soit dans le courant de l'après-midi. Et puis la nuit prochaine, nous aurons encore un autre épisode. Voyons maintenant rapidement les autres régions, parce qu'on ne vous oublie pas, chers amis, si vous habitez le littoral de la Manche, c'est pas brillant non plus, hein, ce sont des giboulées, de grésil ou de neige, toute la journée, ici ou là. En Loire-Atlantique et sur le littoral atlantique, ce sont des éclaircies, jusqu'à Bordeaux. À partir de Bordeaux, c'est de la pluie, tout le sud-ouest. Et puis en Alsace, Franche-Comté, Rhône-Alpes, bassin méditerranéen, profitez d'un bon répit. Il viendra demain, la neige arrivera demain, donc vous avez un bon répit. Et puis, nous allons continuer comme cela, demain ne sera pas encore folichon, et ça va un peu s'améliorer en fin de semaine. Mais le froid va rester, on aura tantôt un peu de froid, tantôt un petit peu de pluie ou de neige. Ce sera en alternance comme cela pendant plusieurs jours.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Nous sommes le mardi 22 janvier, on revient sur les moments forts de cette matinale, Nico Saliagas.
L'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater, Laurent Cabrol vient de nous le dire. L'actualité du jour, c'est l'arrivée de la neige sur la moitié nord du pays. Déjà la circulation perturbée par endroits, conditions difficiles du côté de Lens, sur la 25 entre Dunkerque et Lille ou sur la 13 en direction de Paris, comme nous informe Boris via le hashtag E1Neige qui tourne depuis 5h du mat, 5h ce matin. Et vous aussi, partagez vos photos, vos infos. Point météo complet toute la matinée sur Europe 1, soyez prudents. Si vous habitez loin de votre lieu de travail, sachez que vous pouvez demander à votre employeur de rentrer plus tôt à cause des conditions météo. Écoutez à ce sujet l'avocat d'Europe 1, notre ami Roland Perret, c'était dans le journal de 7h.
Le code du travail est très clair, le salarié ne peut se mettre en danger, de la même manière l'employeur ne peut pas mettre son salarié en danger. Donc s'il faut pour cela partir beaucoup plus tôt, il faut le faire et le patron ne peut en aucun cas s'y opposer, il peut même encourager ses salariés à le faire. C'est du temps de travail qui peut être récupéré plus tard. Si le salarié a tout de même fait l'effort de venir malgré les intempéries, l'employeur dans la plupart des cas ne retiendra pas les heures d'absence s'il part plus tôt.
À 7h20, c'était l'enquête de la matinale, immersion dans la peau des agents secrets du renseignement pénitentiaire, des agents infiltrés dans les prisons françaises pour lutter contre la radicalisation islamiste et qui n'hésitent pas à travailler avec des détenus indiques, histoire d'obtenir des informations, comme l'expliquait la directrice du bureau central du renseignement pénitentiaire.
Si on prend la matière terroriste, on a par exemple des détenus qui ont un engagement citoyen, qui souhaitent nous remonter de l'information parce qu'ils estiment que c'est important. Après, on a aussi des détenus qui collaborent parce qu'ils espèrent en retour une amélioration des conditions de détention. Pour ce faire, on a quelques leviers pénitentiaires, favoriser ou accélérer un transfert d'établissement, changer un détenu de cellule pour lui permettre d'être avec un co-détenu avec qui il s'entendra mieux, voire la possibilité de lui permettre de travailler en prison.
Une enquête d'Europe 1 va plus loin, signée Salomé Legrand, et que vous pouvez retrouver sur le site europe1.fr. Et puis cette nouvelle qui a fait grand bruit hier soir, la secrétaire d'État Marlène Schiappa et Cyril Hanouna vont animer ensemble une émission vendredi soir sur C8 consacrée au grand débat national. Les réactions et surtout les critiques abondent sur les réseaux sociaux. Réponse ce matin de Marlène Schiappa, je lui passais un coup de fil à 7h45.
C'est un espèce de réflexe de Pavlov qui fait que dès qu'on fait quelque chose qui sort des codes, tout le monde s'indigne. Je ne vais pas animer la partie émission, le show, ça reste.
Vous n'allez pas faire l'animatrice avec des appels au vote ou des choses comme ça?
Non, ça c'est le travail de Cyril Hanouna. Moi je viens avec mes paperboards, mes petits feutres Velleda et on va faire un atelier constructif. Ça nous permet de parler de ce grand débat à 700 000 personnes qui regardent l'émission de Cyril Hanouna.
Marlène Schiappa ce matin sur notre antenne. Voilà pour l'essentiel de la matinale. Je voudrais qu'on ait une pensée ce matin pour un immense artiste d'une grande modestie, un immense technicien, adulé par Barbara, par Jacques Brel, Marcel Azola. Il nous a quittés, il avait 91 ans, c'est lui le chauffe Marcel, écoutez.
T'as plus aimé Paris, on a quitté Paris. T'as plus aimé du temps, on a quitté du temps. Mais je te le redis, chauffe Marcel, chauffe, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens.
Bonne journée à tous sur Europe 1. Wendy Bouchard chauffe.
Chauffe l'antenne avec Julie dans quelques instants, le tour de la question.
À tout de suite, Nicolas.
On se retrouve demain, Céline Dacosta.
À demain, Nicolas.
Bye bye, merci. Prenez soin de vous.